seated.
Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être de retour au service du Seigneur encore ce matin. Je ne savais pas si nous allions pouvoir être ici ou non, mais le Seigneur a pourvu d'un moyen et nous sommes revenus pour le service d'aujourd'hui. Maintenant, nous nous attendons à de grands moments aujourd'hui, ce matin, dans la leçon de l'école du dimanche, dans la parole. Et ce soir, il y aura encore un service de guérison, suivi d'un service de communion. Maintenant, nous avons la consécration d'un bébé, je crois. Frère Neville vient de me dire que quelqu'un a un bébé à faire consacrer. Alors, s'ils le veulent bien, qu'ils amènent le bébé maintenant. Et notre frère restera ou quelqu'un à l'orgue ou au piano. Et alors, ils s'approcheront avec le bébé et nous aurons le service de consécration afin que nous puissions aller directement à la parole, aussi vite que possible. C'est que nous aimons nous en tenir à la parole. C'est l'essentiel. Donner précisément notre temps à la parole du Seigneur. Ainsi, nous sommes très reconnaissants de cette occasion de vous rencontrer tous ici aujourd'hui et dans ce service. J'ai dû faire erreur. C'est bien, sœur. J'avais cru comprendre cela. Peut-être que ce n'est qu'une erreur. Très bien. Maintenant, merci beaucoup de toute façon. Peut-être que je pense que l'information nous était parvenue de troisième main, ce qui rend la chose un peu difficile. Maintenant, est-ce que tout le monde se sent bien? Dieu soit loué. Oh oui, voici les tout-petits. Excusez-moi. Très bien. Veux-tu venir, ancien? Eh bien, comme nous avons là deux jolies petites filles, deux jolies fillettes aux yeux bruns, n'est-ce pas? C'est joli. Comment s'appelle-t-elle? Regardez. Jenny? Jennifer Lee. Quel est le nom de famille? Serait. Vous venez d'où, sœur Lee? Versailles, Illinois. Ça, c'est bien. Maintenant, dans la Bible, maintenant, habituellement, il pratique le baptême des enfants, mais nous ne croyons pas dans le fait de baptiser les enfants. Parce qu'ils n'ont pas encore péché, ils sont trop jeunes. Mais nous croyons dans le fait de consacrer les enfants au Seigneur. Maintenant, l'ancien et moi allons imposer les mains à ce petit bébé. Vous avez bien dit Jenny, Jennifer. Très bien. Inclinons la tête. Père Céleste, comme ce matin nous amenons à toi cette petite fille appelée Jennifer. La mère et les bien-aimés ont parcouru une grande distance avec elle pour l'amener jusqu'ici afin qu'elle soit consacrée au Seigneur. Nous savons que de ton temps, tu as posé les mains aux petits-enfants comme elle et tu as dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Maintenant, nous te la remettons pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment s'appelle l'autre petite fille? Connie Lynn. Très bien, petite Connie. Je me sens tout petit avec toi. Oh, tu es effrayée? J'ai bien peur que ça ne fonctionne pas, maman. Très bien. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, la mère nous amène sa petite Connie ce matin pour un service de consécration au Tout-Puissant. Tu lui as donné cet enfant à élever et elle te l'amène avec sa petite sœur. Je te prie, Père Céleste, d'être miséricordieux. Bénis cette famille. Bénis cette petite fille. Comme nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, nous te la remettons pour une vie de service. Amen. Que Dieu vous bénisse, ainsi que vos petits-enfants. Eh bien, nous avons beaucoup de petits bébés à présent. Comment s'appelle le petit garçon? Joel Watson. Joel Lee Watson. Quel brave garçon! Et comme il a de grands yeux bleus! Oh là là! Vous venez d'où? De la Géorgie. J'ai bien pensé que vous veniez du Sud. Je ne savais pas. Oh oui! Oh là là! Eh bien, voici donc un brave petit garçon de la Géorgie, n'est-ce pas? Très bien. Oui, monsieur. Ça, c'est très bien. Et il parle aussi. N'est-ce pas que tu sais parler? Inclinons la tête. Père Céleste, nous amenons ce charmant petit garçon, tandis que la mère et le père se tiennent ici à cause de leur union. Tu leur as donné ce petit garçon à élever et ils te le ramènent. Quelle belle scène ceci ferait! Comme Anne, autrefois, qui pria pour avoir un enfant. Et Dieu lui donna l'enfant. Et elle le ramena au temple de Dieu pour sa consécration. Accorde, Seigneur, que ce petit garçon soit ton serviteur. Et que son père et sa mère soient bénis. Et la santé et la force nécessaires pour l'élever. Et puisse-t-il avoir une vie longue et heureuse. Et être ton serviteur comme nous te le remettons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse. Et faites de lui un homme accompli. Peut-être un autre petit prophète comme Samuel. Et maintenant, voici deux braves petits garçons. Oh là là, mais il y en a trois. Eh bien, c'est la famille au complet. Comment t'appelles-tu? Michael. Et toi? Paul. Quel joli nom. Et quel est le tien? Debra. Ça, c'est vraiment bien. Michael et Paul et Debra. Et quel est votre nom de famille? Ellis. Eh bien, voilà une bien charmante petite famille. C'est moi qui vous le dis. Vous savez, quand je vois des petits-enfants comme ça, cela me rappelle toujours le temps où j'étais moi-même un petit garçon. Vous savez, nous avons un vieux dicton. Il vous marche sur les pieds maintenant et sur le cœur plus tard. Mais je ne crois pas qu'il en sera ainsi quand nous les consacrons au Seigneur. Nous avons une responsabilité ici et Dieu a placé ceci entre vos mains. Il a fait de vous un prédicateur. J'ai toujours parlé des femmes prédicateurs, vous voyez. Mais toute mère est un prédicateur. Voici son assemblée, vous voyez. Elle doit élever ses petits correctement, tandis que papa travaille. Et vous avez une responsabilité. Que Dieu vous bénisse tous deux. Vous avez une belle petite famille. Notre Père Céleste, nous venons avec le petit Michael, le premier-né, semble-t-il. Et nous posons nos mains sur lui en guise de consécration à Jésus-Christ. Sa famille, ils amènent leurs petits-enfants parce que tu les as confiés à leurs soins. Et ils savent que sans ton aide, ils sont insuffisants. Ils amènent donc leur petite famille pour les consacrer. Je te remets maintenant le petit Michael pour une vie de service au nom de Jésus-Christ. Également, nous imposons les mains au petit Paul et nous consacrons sa vie à Jésus-Christ pour une vie de service à la gloire de Dieu. Et sur la petite Debra, nous lui imposons les mains, Père, en consécration, en commémoration de Jésus-Christ, qui a imposé les mains aux petits-enfants, disant « Laissez-les venir à moi, ne les empêchez pas. Puisse la vie de cette petite fille être bénie dans le royaume de Dieu. Bénis le Père et la Mère, et puisse-t-il avoir des vies longues et heureuses, et voir un jour leurs enfants au service de Dieu. » Nous demandons cette bénédiction pour la gloire de Dieu, tandis que nous les consacrons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous êtes une belle petite famille. Oui, quelle... Savez-vous ce que je pense? Les petites filles de Vienne sont plus jolies qu'elles l'étaient lorsque j'étais un petit garçon. Oui, monsieur. Quels beaux grands yeux. Comment s'appelle-t-elle? Johanna. Et votre nom de famille est Blair. Johanna Blair. Vous qui regardez là derrière, n'est-elle pas ravissante? Oui, monsieur. Et comment vas-tu, Johanna? Dis, on dirait qu'elle est un peu timide, Johanna. Juste un petit peu timide. Un amour de petit être. Inclinons la tête. Notre Père Céleste, cette famille, les Blair, a reçu par leur union cette petite Johanna. Et nous savons que les jours sont mauvais, alors que Satan attaque de tous côtés, et particulièrement les petites filles. Et ils savent qu'ils sont insuffisants pour l'élever correctement. Et ils veulent qu'elle soit élevée correctement et qu'elle soit une servante pour toi. Et ils élèvent ces petites filles afin qu'elles te fassent honneur. Et maintenant, il te l'amène pour te la consacrer. Nous lui imposons les mains au nom de Jésus-Christ, tandis que nous consacrons la petite Johanna Blair au royaume de Dieu pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, frère Blair. Que le Seigneur soit avec vous. Bonjour, monsieur. Quel brave garçon nous avons ici. Hey, comment vas-tu? Eh bien, oh, tu aurais meilleure mine si tu te tournais de ce côté. Oui, monsieur. Il a une jolie petite tête. Et le visage pour aller avec, n'est-ce pas? Comment s'appelle-t-il? Daniel Mark. Et votre nom de famille? Harden. Harden. Daniel Mark Harden. Habitez-vous autour d'ici, frère Harden? Oui. Vous venez d'où? De l'État de New York. Un Yankee. Eh bien, c'est un État magnifique. J'ai de la parenté qui habite là-bas. Mon oncle demeure à Plattsburgh. Oh, je me suis bien amusé à New York. Je m'en vais là-haut pour ma prochaine réunion à New York, à l'église de Pierre là-bas. Très bien. Maintenant, vous dites qu'il s'appelle Mark? Daniel Mark. Quel beau petit garçon. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, nous t'amenons le petit Daniel Mark pour la consécration de sa vie. Au père et à la mère a été confiée la tâche d'élever ce petit enfant en l'instruisant selon Dieu. Et ils savent qu'ils sont insuffisants. Aussi l'amènent-ils à toi, Seigneur, afin que tu bénisses sa vie. Or, nous savons que ce jour est mauvais, ce jour dans lequel nous vivons. Nous voyons ces petits et nous ne savons pas du tout ce que demain leur réserve. Mais quoi qu'il en soit, nous les remettons entre tes mains. Nous imposons les mains à ce petit garçon et nous consacrons sa vie à toi pour une vie de service dans le royaume de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est un beau garçon. Et Dieu te bénisse, petit Marc. C'est merveilleux. Merci, sœur. Combien étaient ici dimanche, ont reçu la prière dimanche dernier et ont ressenti les résultats, sentent qu'ils sont guéris. Levez vos mains, vous pour qui on a prié. Oh là là, regardez-moi ça, pratiquement tout le monde. Oui, monsieur, moi aussi. J'ai simplement envie de rester assis là et d'écouter. Voyez-vous? Voyez-vous, quelque chose est en train de se produire, dont je vous parlerai plus tard. C'est glorieux et merveilleux. Et nous en parlerons dans une autre réunion un de ces jours. Ça ne fait que commencer à se produire et nous en sommes tellement reconnaissants. J'étais au Kentucky, comme j'y descends tous les ans. J'étais avec quelques-uns de mes amis là-bas. Et je n'y vais pas juste pour chasser l'écureuil. Vous savez cela, voyez-vous. Ainsi, nous avons simplement un temps glorieux et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Je dois m'en aller maintenant. Je dois retourner à la maison après cette réunion. Et je repasserai un peu plus tard en me rendant à New York pour une réunion. Si nous pouvons avoir une occasion de nous arrêter un peu en passant, eh bien nous serons heureux de tenir une autre réunion ici au tabernacle. Et puis, j'aurai à revenir en allant à Shreveport. Et ensuite, nous retournons à la maison et projetons d'être ici pour les fêtes, le Seigneur voulant, alors que je ramènerai la famille. Ensuite, ce sera le moment de ma réunion à Phoenix, en janvier. C'est l'assemblée annuelle des hommes d'affaires chrétiens là-bas. Et environ une semaine ou 10 jours avant cela, je vais essayer de louer ce grand « Les gens du nom de Jésus » dont s'occupait frère Garcia, le frère espagnol. Ont un édifice merveilleux là-bas. Ils viennent juste de le construire. Il peut asseoir plusieurs milliers de personnes. Tout neuf, et leur assemblée est très restreinte. Ils m'ont dit que je pourrais louer cela n'importe quand. Au lieu de faire le tour à travers la vallée d'une église à l'autre, je pense que je vais simplement tout concentrer dans une grande réunion, tous ensemble, vous voyez, et la tenir à cet endroit-là. Nous pourrons louer le temple. Nous allons nous informer si ce sera possible. Et ensuite, nous aurons le congrès des hommes d'affaires chrétiens. En attendant que tout soit réglé pour l'étranger, nous essayerons de fixer des réunions du côté du sud pour janvier, février et mars, dans les régions du sud. Et puis, parce que si nous nous apprêtons maintenant à aller en Afrique, voyez-vous, le temps de Noël, pour eux, c'est le 4 juillet. Voyez-vous, il fait mauvais et c'est pluvieux. Vous ne pouvez donc pas y aller en ce moment. Alors le meilleur temps pour s'y rendre est un peu plus tard. Nous voulons donc commencer, si nous le pouvons, en Norvège, et descendre, voyager autour du monde, et nous frayer un chemin jusqu'en Afrique, pour terminer là-bas, le Seigneur voulant. Mais priez pour nous maintenant, et nous vous aimons, Vous le savez. Ainsi, nous nous attendons à ce que le Seigneur fasse infiniment au-delà de tout ce que nous pourrions faire ou même penser. Et nous croyons qu'il y aura ce soir un grand service de guérison. Nous croyons qu'il y aura, je ne parlerai qu'un petit peu, parce qu'il y a la communion ce soir. Je vais donc parler peut-être 20 ou 30 minutes, et ensuite nous aurons la ligne de prière. Et immédiatement après, nous aurons la communion. Nous vous invitons à rester avec nous. Cela nous fera plaisir. Nous n'avons pas une communion fermée. La communion s'adresse à chaque croyant. Chaque croyant. Avant de lire l'Écriture, pourrions-nous incliner la tête juste une minute? Je vais demander à un bon ami, frère Lee Vail, de bien vouloir nous conduire dans un mode de prière, demander à Dieu de bénir sa parole. Frère Vail, voulez-vous le faire pour nous?
Help us to receive the word this morning, spoken by the servant of God that you have sent, knowing, Lord, that he can say to us as Paul said, what came the word of God, out of your came the word of God to you. We believe this morning, Lord, not exalting any man above his position, but surely we can recognize that the word of God is coming unto us this morning.
Amen.
Lord, we believe all of us want to hear and receive the aid.
Accorde le Seigneur. Accorde le Seigneur.
Everything that in his person, the Holy Spirit, in us and then through us, unto a lost and dying world.
Accorde le Seigneur.
This morning we pray Jesus. Thy servant, O God, in us. We shall therefore glorify as we have not done so before.
Yes. Oui, Seigneur.
In Christ we pray. Amen.
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 Now,
maintenant, solennellement et avec respect, nous abordons la parole. Je désire lire ce matin dans Exode, au chapitre 12, en commençant avec le verset 12. Du verset 12 au verset 13 inclus. Écoutez bien maintenant. Et avant la communion ce soir, lisez le chapitre 12 d'Exode, le chapitre au complet. Car ici, au verset 11, il est question de la préparation pour le voyage et de la communion avant de se mettre en route. Nous voulons aborder ceci avec beaucoup de respect. Alors, le verset 12 du chapitre 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Puisse le Seigneur bénir sa sainte parole. Maintenant, je désire tirer mon sujet de là. Je prendrai un simple petit mot de 5 lettres. Signe. Signe. Je désire parler sur ce mot, ou plutôt enseigner la leçon de l'école du dimanche sur ce mot, un signe. La Bible dit ici, le sang vous servira de signe. Nous voulons donc utiliser le mot signe. Maintenant, nous ne savons pas quand je surveille l'horloge, et quand c'est l'heure, eh bien, j'ai noté de très nombreux passages des Écritures ici. Ainsi, et sachant que je ne serai pas avec vous avant un bon moment, et comment pouvons-nous être certains que ceci ne sera pas la toute dernière fois où quelques-uns d'entre nous se rencontrent? Ainsi, essayons d'aborder ceci avec le plus de respect. Je sais que c'est difficile. Le Seigneur nous a donné une belle matinée pour le service, une bien belle matinée. Tâchons donc maintenant de nous concentrer sur tout ce qui sera dit, afin que, s'il y avait quelque chose là-dedans que le Seigneur veuille vous faire savoir, cela puisse vous être transmis. Nous ne sommes pas là simplement pour être vus. Nous ne sommes pas venus ici pour montrer nos beaux vêtements. Ou nous sommes venus pour une chose, ainsi que notre frère l'a exprimé dans sa prière. Nous sommes ici pour entendre la parole qui vient à nous. C'est ce que nous désirons, car c'est la seule chose qui aura une quelconque valeur pour nous. Une valeur réelle et qui pourra nous aider. Nous sommes un peuple qui se meurt. Tous les êtres humains se dirigent vers l'éternité. Et alors, cette période de temps nous est allouée pour nous permettre de prendre une décision, de décider de quel côté nous allons nous diriger. La route est devant nous. Nous pouvons prendre le côté qu'il nous plaira de choisir. C'est ainsi qu'il a placé Adam et Ève, et c'est ainsi qu'il nous place. Nous devons nous rappeler que peu importe ce que nous faisons et combien nous prospérons dans cette vie, sans Christ, nous avons complètement tout perdu. Vous voyez? Alors, s'il est tout ce que nous pouvons espérer, eh bien, nous serions les gens les plus insensés de ne pas l'accepter et le chérir. Non pas seulement l'accepter, mais vous passez à quelque chose de plus grand encore. Après l'avoir reçu, ne le prenez pas pour le poser sur une étagère. Il faut s'en servir. C'est comme si vous vous présentiez chez le médecin pour avoir un médicament et qu'ensuite vous le placiez sur l'étagère. Si vous allez chercher le médicament, prenez le médicament. Si une maladie vous importune et que ce remède est censé vous aider, prenez ce qu'il vous donne. Et exactement de la manière prescrite. Car il peut arriver que juste quelques minutes fassent beaucoup de différence dans la façon de le donner. Et comment savons-nous, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, juste un moment de votre décision pourrait bien déterminer votre destination éternelle. Prenez-le simplement comme il vous le donne. Un signe. Le sang vous servira de signe. Maintenant, pour commencer, qu'est-ce qu'un signe? C'est un mot que nous, anglophones, employons communément, et particulièrement ici en Amérique. Un signe est... En fait, le dictionnaire dit qu'un signe est une indication. Cela indique que le prix d'un passage a été payé. Voyez-vous? Que le passage ou un prix exigé, a été payé. Comme, par exemple, le prix d'une place sur une ligne de chemin de fer ou d'autobus. Vous allez acheter votre place et alors on vous remet un jeton. Et ce jeton ne peut être employé pour rien d'autre que pour cette ligne de chemin de fer. C'est un signe pour la compagnie de chemin de fer que vous avez payé votre passage. C'est un signe et vous ne pouvez l'employer pour rien d'autre. Il ne fonctionnera sur aucune autre ligne. Il fonctionne uniquement sur cette ligne-là. Et c'est un signe. Maintenant, ici, ce dont nous parlons, là où nous commençons, c'est de Dieu qui dit à Israël, « Le sang de l'agneau est pour vous un signe. » L'agneau immolé d'Israël était le signe exigé par Jéhovah. Ce devait être le sang. Dieu a fait un signe et l'a donné à Israël. Aucun autre signe ne fonctionnerait, voyez-vous, ne pourrait être admis. Pour le monde, c'est un tas de sottises. Mais pour Dieu, c'est le seul moyen. La seule chose qu'il exige est ce signe. Il doit être là. Et vous ne pouvez pas avoir le signe tant que le prix n'a pas été payé. Alors, vous êtes détenteur du signe qui vous donne le privilège d'un passage gratuit. Je verrai le sang. Je passerai par-dessus vous. Quel temps, quel privilège de savoir que vous portez en vous le laissez-passer. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'est la seule chose qu'il reconnaîtra. Rien d'autre ne peut le remplacer. Aucun substitut, aucune dénomination, rien d'autre. Il faut la voir. Dieu a dit, je ne verrai rien d'autre que cela. Peu importe combien ils étaient justes, combien ils étaient bons, combien ils étaient instruits, comment ils s'habillaient, le signe était la seule chose. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Le sang était un signe que l'exigence de Jéhovah avait été satisfaite, que cela avait été fait. Le sang servait de signe. Le sang était le signe. Voyez-vous? La vie, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, ce jour-là, vous mourrez. Et une vie avait été prise en remplacement de la vie du croyant. Dieu, dans sa miséricorde, accepta un substitut pour la vie de la personne souillée. Quand son enfant s'était souillé avec le péché, en ne croyant pas la parole, alors Dieu, riche en miséricorde, pourvu à un substitut. Et c'était que quelque chose devait mourir à sa place. Rien d'autre ne pourrait fonctionner. C'est pourquoi les pommes de Caïn, ses pêches, et ainsi de suite, n'ont pas fonctionné. Ce devait être une vie qui contenait du sang, et la vie devait s'être retirée du sacrifice. Et à ce moment-là, le sang était un signe que l'ordre de Dieu avait été exécuté. Maintenant, qu'est-ce que Dieu exigeait? La vie. Et le sang démontrait qu'une vie s'en était allée. Le sang était donc le signe que la vie avait été donnée, que quelque chose était mort. L'exigence de Dieu. Une vie avait été donnée, le sang avait été versé. Et le sang servait de signe que la vie s'en était allée. La vie de l'animal. Dieu avait dit qu'elle devait lui être enlevée. Et le sang servait de signe que cela avait été fait. Voyez-vous? Le croyant, dans son adoration, était identifié à son sacrifice par le signe. Je ne veux pas trop m'attarder sur ces petits passages. On pourrait passer tout un service, rien que sur l'un d'entre eux. Mais je désire m'arrêter ici un moment pour bien vous exprimer que le croyant devait être identifié avec son sacrifice. Voyez-vous, ce n'était pas juste un sacrifice qu'il aurait donné et qui était offert quelque part. Il devait s'identifier en lui. En fait, il devait premièrement placer ses mains sur son sacrifice afin de s'identifier avec celui-ci. Et ensuite, le sang était placé à un endroit tel qu'il pouvait se tenir sous le sang. Le sang devait être au-dessus de lui. Et c'était là un signe qu'il s'était identifié lui-même comme coupable et qu'il présentait la preuve qu'un substitut innocent avait pris sa place. Quel tableau magnifique! Oh, un racheté! Voyez-vous? La justice avait été rendue. L'exigence de la sainte justice de Dieu avait été satisfaite. Dieu avait dit, « Je réclame ta vie. » Quand la vie eut péché, un substitut innocent prit alors sa place. C'était une bête ayant du sang, pas une pomme ou une pêche. Cela devrait rendre la semence du serpent parfaitement claire pour chacun. Il s'agissait de sang. Et ce sang, qui ne pouvait pas sortir d'un fruit, est sorti d'un substitut innocent. Et la vie s'était retirée à sa place. Et le sang était un symbole que la bête était bien morte et que le sang s'en était retiré. Et l'adorateur, appliquant le sang sur lui-même, montrait qu'il était identifié dans la rédemption parce qu'il s'identifiait lui-même avec le sacrifice en se joignant lui-même au sacrifice. Et le sang servait de signe. Comme c'est merveilleux. Quel tableau cela fait. C'est un type parfait de Christ. Exactement. Le croyant aujourd'hui, se tenant sous le sang versé, identifié avec le sacrifice. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Et de quelle façon Christ, qui n'était pas un animal, vous voyez, l'animal mourait, mais c'était l'animal le plus innocent que nous ayons serait l'agneau, je suppose. Lorsque Dieu voulut identifier Jésus-Christ, il l'identifia à un agneau. Et lorsqu'il voulut s'identifier lui-même, il s'identifia à un oiseau, à une colombe. Or, la colombe est le plus innocent et le plus propre de tous les oiseaux. Et l'agneau est le plus innocent et le plus pur de tous les animaux. Ainsi, vous voyez, lorsque Jésus fut baptisé par Jean, et la Bible dit, et il vit l'Esprit de Dieu comme une colombe descendre sur lui. Par conséquent, s'il s'était agi d'un loup ou de n'importe quel autre animal, la nature de la colombe n'aurait pas pu se marier à la nature du loup. La nature de la colombe ne pouvait pas non plus se marier à aucun autre animal que l'agneau. Et ces deux natures se sont unies. Elles pouvaient alors s'accorder l'une avec l'autre. Maintenant, voyez-vous la prédestination? C'était un agneau lorsqu'il s'est présenté là. Voyez-vous, c'était un agneau lorsqu'il fut apporté. Il était un agneau. Il est né un agneau. Il a été élevé comme un agneau. Voyez-vous? Par conséquent, voilà le seul genre d'esprit véritable qui peut recevoir la parole, qui peut recevoir Christ. Les autres essayeront. Ils essayent de l'obtenir, de placer l'Esprit de Dieu sur un loup. Vous voyez, colérique, mauvais, mesquin, il n'y restera pas. Le Saint-Esprit s'envole tout de suite. Il ne le fera pas. Que serait-il arrivé si cette colombe était descendue et qu'au lieu d'un agneau, un autre animal s'était tenu là? Elle aurait rapidement pris son envol et s'en serait retournée. Voyez-vous? Mais, ayant trouvé cette nature avec laquelle elle pouvait se fusionner, cela a tout simplement fait un. Et alors, la colombe conduisit l'agneau. Et remarquez, elle mena l'agneau à l'abattoir. Or, l'agneau était obéissant à la colombe. Voyez-vous? Peu importe où elle le menait, il était prêt à y aller. Je me demande aujourd'hui, alors que Dieu nous mène à une vie d'abandon complet et de service pour lui, je me demande si nos esprits ne se rebellent pas parfois, montrant en quelque sorte que, je me demande si nous sommes des agneaux. Voyez-vous, un agneau est obéissant. Un agneau se sacrifie lui-même. Il ne réclame rien en propre. Vous pouvez l'étendre là et lui tondre sa laine. C'est la seule chose qu'il possède. Il ne dit jamais rien à ce sujet. Il sacrifie simplement tout ce qu'il possède. Voilà ce qu'est un agneau. Il donne tout. Il distribue tout. Lui-même est tout ce qu'il est. C'est ainsi qu'est un vrai chrétien. Ils se sacrifient eux-mêmes, ne portant aucun intérêt à ce monde, mais donnant tout ce qu'ils ont à Dieu. Voyez-vous? Or, c'était l'agneau parfait. Christ l'était. Et puis, à travers le sang répandu de cet agneau, de l'agneau naturel en Égypte, le sang était appliqué. Et à ce moment-là, il servait de signe. Mais alors, que représenterait le sang de cet agneau-ci? Le signe que nous sommes morts à nous-mêmes et identifiés à notre sacrifice. Voyez-vous, alors l'agneau et le sang et la personne deviennent identifiés ensemble. Le sacrifice et le croyant. Voyez-vous, vous êtes identifiés dans votre vie par votre sacrifice. C'est ce qui fait de vous ce que vous êtes. Le sang était donc un signe ou une marque d'identité. Le sang identifiait l'adorateur comme ayant abattu l'agneau, accepté l'agneau, et appliqué le signe à lui-même, montrant qu'il n'en avait pas honte. Peu lui importait qui le voyait, il voulait que tout le monde le voie. Et le sang était placé dans une position telle que tous ceux qui passaient par là pouvaient voir ce signe. Vous voyez, beaucoup de gens veulent être chrétiens. Et ils aiment à le faire en secret, pour que personne ne sache qu'ils sont chrétiens. Les collègues qu'ils fréquentent, certains d'entre eux pensent, « Eh bien, regardez, je veux être un chrétien, mais je ne veux pas qu'un tel le sache. » Voyez-vous? Eh bien, vous voyez, ça, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme doit montrer son signe, publiquement, dans la vie publique, au bureau, sur la rue, quand les problèmes surviennent, quoi que ce soit, à l'église, partout ailleurs. Le sang est le signe, et le signe doit être appliqué, voyez-vous? Ou alors ce n'est pas, l'alliance n'est même pas en vigueur. Le sang était un signe ou une marque d'identité, identifiant cette personne comme ayant été rachetée. Maintenant, remarquez, ils étaient rachetés avant même que quoi que ce soit se fût produit. Par la foi, ils appliquaient le sang. Voyez-vous, avant que cela arrive, effectivement, le sang était appliqué par la foi, croyant que cela allait arriver. Voyez-vous, avant que la colère de Dieu parcourt le pays, le sang devait être premièrement appliqué. Il était trop tard, une fois que la colère avait été déversée. Maintenant, nous avons là une leçon sur laquelle nous pourrions vraiment, peut-être, vous faire réfléchir un petit moment. Regardez, avant que cela se produise, car il viendra un temps où il ne vous sera plus possible d'appliquer le sang. L'agneau était abattu au temps du soir, après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était tué, et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous? Le signe n'est apparu qu'au temps du soir. Et c'est le temps du soir de l'âge dans lequel nous vivons. C'est le temps du soir pour l'Église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'Évangile. Nous sommes passés par la justification et ainsi de suite. Mais c'est maintenant le temps où le signe doit être appliqué. Je vous ai dit dimanche dernier que j'avais quelque chose dont je voulais vous parler. Nous y voilà. Le temps où on ne peut plus prendre cela à la légère. Cela doit être fait. C'est le moment ou jamais de le faire. Parce que nous pouvons voir que la colère est presque sur le point de parcourir le pays. Et tout ce qui n'est pas sous ce signe périra. Le sang, c'est ce qui vous identifie. Remarquez, étant donné que la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain, lorsque le sang était répandu, la vie en sortait, bien sûr, parce que cela formait un tout. Et lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie étant différente du sang. Or, le sang, ce sont les composants chimiques de la vie. Mais la vie est quelque chose de différent du sang. La vie est dans le sang. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'adorateur. Lorsqu'il faisait couler ce sang de l'agneau, il devait en appliquer les composants chimiques. Parce que la vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Parce qu'elle ne pouvait pas venir sur un être humain parce que la vie animale ne possède pas d'âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu et il n'a aucune conscience du péché. Il ne connaît pas le péché. C'est donc un être vivant, mais pas une âme vivante. Par conséquent, cette vie animale ne pouvait pas revenir sur une vie humaine parce que dans cette vie-là, il n'y avait pas d'âme. Or, il y a une vie, un sang, une vie et une âme dans la vie. L'âme est la nature de la vie. Il n'avait donc pas de nature particulière. C'était un animal. Par conséquent, le sang servait de signe que la vie avait bien été donnée. Mais ici, c'est glorieux, sous cette alliance-ci, il y a une différence entre le sang et la vie. Le signe pour le croyant aujourd'hui est le Saint-Esprit. Non pas du sang, des composants chimiques, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est là le signe que Dieu exige de l'Église aujourd'hui. Dieu doit voir ce signe. Il doit le voir en chacun de nous. Donc, comme les ombres du soir apparaissent, et que la colère est prête à être déversée d'en haut sur les nations impies et sur les incroyants impies, sur ceux qui font une profession sans possession sur ces choses. Et j'ai essayé de m'ouvrir et de vivre au milieu de cela pour voir ce qui en était avant de dire ces choses. Nous vivons présentement dans les ombres et la colère est prête à s'abattre. Et Dieu exige un signe, que vous ayez vous-même reçu son signe, le Saint-Esprit. C'est là le seul moyen et le seul signe par-dessus lequel Dieu passera. Parce qu'il s'agit de la vie littérale de Jésus-Christ, revenu dans le croyant. La vie animale ne pouvait pas revenir. Par conséquent, du sang devait être placé sur la porte, sur le linteau et sur les poteaux de la porte, de sorte que tous les passants, la foule, tous ceux qui passaient devant cette maison savaient qu'il y avait un signe sur cette porte, du sang, montrant qu'à cette porte-là, une vie s'était éteinte. Amen. Il doit en être ainsi de chaque croyant aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit. Un signe que le sang répandu de l'agneau, que cette vie qui était dans l'agneau est revenue, et elle est scellée à l'intérieur, publiquement, de façon que toute personne qui passe, qui vous adresse la parole, qui a des rapports avec vous, voit que le sang a été appliqué, et que le signe de la vie qui était dans ce sang est sur vous. Vous êtes à l'abri de la colère. Cela seulement, pas un statut de membre. Non, monsieur, la vie animale ne pouvait pas venir sur le croyant parce que c'était un animal. Cela témoignait seulement d'une conscience montrant qu'un sacrifice parfait viendrait. Et maintenant, comment pourrait-il y avoir un sacrifice plus parfait que Dieu lui-même devenant lui-même l'expiation? Alors que Dieu, de son propre sang créateur, a été fait chair. Le seul moyen qu'une vie de Dieu puisse jamais revenir, parce que nous étions tous nés par le sexe. Par conséquent, la vie qui se trouve à l'intérieur est du monde, et cette vie ne tiendra pas. C'est une chose qui est déjà jugée et condamnée. Vous ne pouvez pas la rapiécer. Il n'y a pas moyen de la rapiécer. Il n'y a pas moyen d'aplanir cela. Il n'y a pas moyen de l'améliorer. Elle doit mourir. C'est la seule exigence. Elle doit mourir. Et le substitut, une vie de Jésus-Christ, doit venir en vous, ce qui est le Saint-Esprit, le signe de Dieu, montrant que vous avez accepté le sang de son Fils, Jésus-Christ. Donc, au jour de Wesley, ou plutôt au jour de Luther, on pensait, il faut croire. Au jour de Wesley, les composants du sang. Mais c'est maintenant le dernier jour où le signe est exigé. Tout cela forme, ensemble, l'unité complète pour l'enlèvement. Vous voyez, l'eau, le sang et l'esprit viennent lorsqu'une mère donne naissance au bébé. La première chose qui s'échappe lors d'une naissance normale, c'est de l'eau. La seconde chose est du sang. Et la chose suivante est la vie. Du corps de notre Seigneur Jésus-Christ sortir de l'eau, du sang et la vie. Et ensemble, l'Église complète, l'épouse, a été formée à travers la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, qui est le signe. Comme le dit Hébreux 11, « Tous ceux-là qui allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, et qui étaient dénués de tout, et toutes ces choses qu'ils firent, néanmoins, ne parvinrent pas sans nous à la perfection. Et l'Église qui, en ce jour, a reçu le signe, le baptême du Saint-Esprit, montrant que le sang a été répandu et que le Saint-Esprit est sur l'Église. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter, mais ils comptent sur nous, car Dieu a promis qu'ils l'auraient. Et quelqu'un y sera. Je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu'un le recevra. La seule chose dont je suis responsable, c'est de le prêcher. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette semence prédestinée. Il y en aura là, pourtant, parce qu'ils seront là, chacun d'eux, l'un avec l'autre, l'âge de l'eau, l'âge du sang, et maintenant l'âge du signe du Saint-Esprit. Et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fut exigé. Pas le matin, Pas pendant la préparation, ces 14 jours où il gardait l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Wesley le savait aussi. Finney, Knox, Calvin le savaient également. Nous y voici. Ils savaient qu'à un certain moment, la colonne de feu reviendrait à l'Église. Ils savaient qu'à un certain moment, ces choses se produiraient. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir, mais ils attendaient cela avec impatience. Israël savait que quelque chose allait venir, mais c'est au temps du soir que le sang de cet agneau, le signe, fut placé sur la porte. Toutefois, l'agneau était déjà gardé. Il s'est agi de l'agneau tout le long. Du temps de Luther, c'était l'agneau. Du temps de Wesley, c'était l'agneau. Mais c'est maintenant le temps du signe, où chaque maison doit être couverte du signe. Chaque maison de Dieu doit être couverte du signe. Tout ce qui se trouve à l'intérieur doit être couvert du signe. Et la maison de Dieu est le corps de Jésus-Christ. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés dans ce signe. Et en devenons une partie dont Dieu a dit, « Quand je verrai ce signe mis en évidence, je passerai par-dessus vous. » Quelle heure nous sommes en train de vivre! Oh, du sang identifiait le croyant, parce que la vie s'était retirée et ne pouvait pas revenir. Il fallait donc qu'il ait des composants chimiques. Il devait avoir une espèce de peinture, du sang, des composants chimiques qui montraient que la vie s'en était allée. Maintenant, l'Esprit lui-même est le signe. Le Saint-Esprit lui-même est le signe, pas le sang. Le sang a été répandu au calvaire, c'est vrai. Mais le sang, en tant que tel, est retourné aux éléments dont il avait été pris, les aliments dont il se nourrissait. Seulement, vous voyez, à l'intérieur de cette cellule sanguine se trouvait une vie qui mit la cellule sanguine en mouvement. Si cela, les composants chimiques en soi n'avaient pas de vie, et par conséquent, ils ne pouvaient pas bouger. Mais lorsque la vie entra dans les composants chimiques du sang, elle forma une cellule. Elle forma sa propre cellule, et de là, cellule sur cellule, et cela devint un homme. Et cet homme était Dieu, Emmanuel, dans la chair. Mais quand cette vie est revenue, les composants chimiques sont allés là. Mais le signe est le Saint-Esprit sur l'Église, de telle sorte qu'il voit Christ. Il doit en être ainsi, parce qu'une femme et son mari deviennent un. Ils deviennent un. Et, de même, l'épouse et Christ deviennent un. Le ministère de l'épouse et le ministère de Christ sont un même ministère. Vous vous souvenez, Théophile, je t'ai parlé dans mon premier livre de ce que Jésus a commencé à faire et continue à faire. Sa mort ne l'a pas arrêté. Non, monsieur, il est revenu. Pas une troisième personne, mais la même personne est revenue sous la forme du Saint-Esprit pour poursuivre son œuvre. Et il continue, nous dit le livre des Actes. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est là le signe. Voilà le signe. Lorsque Pierre et Jean franchirent la porte, appelée la Belle, il y avait là un homme qui avait été infirme, boiteux, dès le sein de sa mère. Il dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En parlant avec eux, les gens virent qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Vous voyez, le signe était là, bien en vue. Vous voyez, ce que j'ai, voyant un pauvre frère déchu, étendu là, infirme, défiguré et tout, et la même vie qui était en Christ se trouvait en eux, ce que j'ai. En mon nom, vous chasserez les démons. Non pas « je le ferai », mais « vous le ferez ». Si vous dites à cette montagne, non pas « si je dis », si vous dites à cette montagne, « Oh frère, l'heure où ce signe doit être mis en évidence est proche. Nous pouvons le voir. Nous savons que nous approchons de la fin maintenant. Nous avons apporté toutes sortes de messages pour montrer des signes et des prodiges. Et voici que nous en venons à ce que l'Église doit faire. Le signe doit être mis en évidence. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Rien d'autre ne fonctionnerait. Ce doit être le sang. Or, le Saint-Esprit est notre signe venant de Dieu. Un grand théologien, un frère baptiste très instruit, un homme bien, un brave homme, est venu vers moi une fois et m'a dit, « Frère Branham, vous parlez de ce Saint-Esprit. Eh bien, il n'y a là rien de neuf. Nous avons enseigné cela tout au long des âges. » Et j'ai dit, « Eh bien, je vais. » Il a dit, « Nous avons reçu le Saint-Esprit. » J'ai dit, « Quand l'avez-vous reçu ?» Il a dit, « Lorsque j'ai cru. » Je savais que ceci était conforme à la théologie baptiste, qui dit que l'on reçoit le Saint-Esprit lorsque l'on croit. J'ai dit, « Paul a dit dans Actes 19, à une poignée, à un groupe de baptistes, parmi lesquels un prédicateur baptiste, un des convertis de Jean, prouvait par la Bible que Jésus était le Christ. » Après avoir traversé les contrées supérieures, il trouva à Éphèse certains disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru ?» Ils répondirent, « Nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il leur a alors demandé comment ils avaient été baptisés. Et ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ, l'agneau sacrifié. Ils n'étaient pas du tout identifiés à lui. Ils ne faisaient qu'y croire, comme si le médicament était là et qu'ils ne l'aient pas pris. Paul leur commanda d'être baptisés à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Et quand il l'a fait, c'est alors que le signe est venu sur eux. Ils ont été identifiés par les œuvres et les signes du Saint-Esprit, qui parlaient en langue à travers eux et prophétisaient et glorifiaient Dieu. Ils ont été identifiés à leur sacrifice. Et le Saint-Esprit est notre marque d'identité. C'est ce qui nous identifie en tant que chrétiens. Non pas le fait de se joindre à telle ou telle église, non pas notre compréhension de la Bible, non pas combien vous en savez sur la Bible, mais plutôt combien vous en savez sur l'auteur, voyez-vous, ou dans quelle mesure l'auteur vit en vous. C'est votre moi qui n'est plus, vous n'existez plus, vous vous considérez comme mort, et le signe est ce qui vit en vous, et ce n'est pas votre vie à vous, c'est lui. Paul a dit, « La vie que je vis maintenant, il vivait une vie différente de celle d'autrefois. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. » Voilà le signe identifié que Dieu exigeait. Identifié à notre, l'identification à notre sacrifice, la vie de notre Sauveur en nous, le Saint-Esprit. Oh, quel signe positif! Il ne peut plus y avoir d'autres signes. Oh là là, si seulement vous pouviez en saisir l'idée, si j'avais le pouvoir ce matin, par des mots, de vous exprimer et de placer dans votre âme qui se trouve à l'un, non pas dans vos oreilles, mais dans votre âme, si vous pouviez en voir la garantie, cela vous procure une telle détente. Qu'en serait-il si vous aviez commis un crime et alliez être jugé en cour fédérale? Et vous savez que si l'on vous reconnaît coupable, vous allez mourir. Vous risquez la chaise électrique, ou la chambre à gaz, ou toute forme d'exécution publique qu'on peut vous réserver. Peut-être pendu, ou quelque chose, lynché, quelle que soit la peine. Et vous savez que vous êtes coupable. Vous savez que vous êtes coupable. Et que vous devrez mourir si vous ne trouvez pas pour vous représenter un avocat qui puisse vous sortir de ce pétrin. Bien sûr, vous voudriez avoir le meilleur avocat possible. Et alors, en ayant un habile avocat, vous sentiriez que votre cause est un peu, vous pourriez vous détendre un peu, parce que vous avez un avocat. Mais il y aurait toujours cette question de savoir si cet avocat pourra renverser l'opinion du juge ou du jury. Si cet avocat, par son discours astucieux et sa connaissance des lois, pourra changer cela, plaider votre cause et prouver que vous devriez vivre. Mais malgré toute son autorité en la matière et son discours éloquent et l'impression qu'il pourrait faire sur le jury ou sur le juge, vous pourriez peut-être vous détendre quelques minutes, mais il y aurait toujours cette question dans votre esprit. Pourra-t-il y arriver? Mais dans ce cas-ci, le juge lui-même devient notre avocat. Dieu est devenu homme. Aucun avocat ne pouvait le faire. Nous ne pouvions pas en trouver un seul. Moïse et la loi, les prophètes, rien ne pouvait le faire. Alors le juge est devenu lui-même à la fois jury, avocat et juge. Et il a pris la justice de sa loi dans ses propres mains pour en payer lui-même le prix. Comment donc pourrions-nous être plus à l'abri? Et il a renvoyé sa propre vie sur nous pour témoigner du fait qu'il a accepté cela. Quelle sécurité! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. En devenant à la fois juge, jury et avocat, il a plaidé notre cause. Nous avions été reconnus coupables par sa propre loi. Et il est venu prendre la place de la personne coupable dans le sanctuaire. Il a pris son péché. Il l'a pris sur lui-même, est mort, a payé le prix, a versé son sang et a renvoyé son propre signe, sa propre vie. Alors nous sommes parfaitement, l'affaire est classée, il n'y a plus de péché pour le croyant. Oh, que Dieu soit miséricordieux, si les gens ne peuvent pas voir cela, il n'y a plus de cause à plaider. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voilà ce qui en est de la cause. Elle est classée. Il n'y a plus lieu à poursuite. Amen. Alors, en sécurité, avec le signe appliqué, quand la mort se met à frapper là contre la porte, elle n'a aucun pouvoir. Voyez-vous? Le signe est appliqué. Seul le signe est reconnu maintenant. Voyez-vous, il a fait cela afin que le signe puisse venir. Le signe était la vie de Dieu. Et Dieu, en faisant le premier homme, il s'est fait un fils. Et le fils était tellement corrompu qu'il a écouté sa femme plutôt que Dieu. Et la femme a écouté le diable plutôt que son mari. Et à ce moment-là, cela les a tellement corrompus ensemble que cela a entraîné une pollution. Et lui savait qu'étant donné qu'ils avaient fait cela, il faudrait qu'ils mettent des enfants au monde. Le fruit du milieu de l'arbre ne devait pas être touché. Aussi, quand c'est arrivé, Adam et Ève se sont attirés ce péché. C'est ainsi que le genre humain au complet qui est né s'est trouvé dans le péché. Là, aucun moyen d'en sortir. Et alors, Dieu est descendu. Il n'y a qu'un moyen de le reprendre, c'est de se pourvoir d'un nouveau fils. Et comment pouvait-il le faire, alors que sa propre loi se tenait là, déclarant « il est condamné ». Alors le Père lui-même est devenu l'un de nous. Voilà le véritable agneau. Voilà le dessein qu'il avait en tête. Voilà la raison pour laquelle l'agneau fut ainsi identifié dans le jardin d'Éden. Sachant que l'agneau et la colombe se rencontreraient à un certain moment, lorsque l'agneau et la colombe seraient ensemble. C'est à ce moment-là, il le savait, que grâce à cela, nous pourrions tous être ensemble. Et il était disposé à faire un tel sacrifice afin que le signe puisse être appliqué. Nous ne sommes donc plus privés du droit de cité. Nous ne sommes plus des étrangers, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. À la fois Adam et Ève, la femme et l'homme, unis, sont fils et filles de Dieu en Christ Jésus, par son grand sacrifice. Et ensuite, pour qu'il n'y ait pas d'erreur possible, la semence de cette vie-ci qui doit être plantée dans la terre, ce corps-ci qui est une semence périssable, et la vie, si c'est une vie pervertie qui se trouve à l'intérieur de la semence, périt avec la semence. Mais lui a placé en elle la vie éternelle et l'a identifiée comme étant à lui, afin qu'à la résurrection, il la ressuscite et qu'elle ne soit pas perdue. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, elle ne peut plus périr. La vie la recouvre. C'est un signe. Recouvre ce petit corps. Recouvre l'âme de cette personne. Il y a là un signe, le Saint-Esprit, montrant qu'elle appartient à Dieu. Elle est à lui. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Un signe positif. Le Saint-Esprit est notre signe. Par conséquent, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes passé de la mort à la vie. C'est aussi simple que ça, parce que la vie est en vous. Vous ne pouvez plus périr. La Bible dit, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car il ne peut pas pécher, parce que la semence de Dieu, amen, la semence de Dieu demeure en lui. Et comment peut-il pécher alors que le Dieu sans péché est en lui? Alors qu'il est dans un Dieu sans péché, comment peut-il pécher? Peu importe ce qu'il a fait, le sang l'a couvert. Il est une nouvelle créature à présent. Ses désirs et ses ambitions viennent du ciel, parce qu'il a été changé d'un gratteron en un grain de blé. Ses désirs ne sont plus les mêmes qu'autrefois, et il le démontre. Vous dites, « Oh, je crois cela !» Et vous péchez encore? Non, non, vous êtes séduit, voyez-vous. Il ne peut mettre en évidence rien d'autre que le signe. Israël reçut l'ordre de demeurer sous le sang jusqu'à ce que la consigne de marche leur fût donnée. N'en sortez pas! Une fois sous ce signe, ils étaient scellés à l'intérieur. Ne partez pas de là. Ils restèrent là jusqu'à ce que sonne le coup de minuit et que les trompettes retentissent. Et lorsque les trompettes retentirent et que ces vieilles cornes de bélier commencèrent à résonner, chacun d'eux sortit avec ses provisions et se mit en route vers la terre promise. Il en va de même pour un homme ou une femme qui est rempli du Saint-Esprit. Il est scellé et préservé de tout mal et de tout danger. Sa vie tout entière fait la preuve de ce qu'il est. Où qu'il mette le pied, quelque transaction qu'il effectue, quelle que soit la personne avec qui il converse, lorsqu'il entre en rapport avec les femmes, lorsqu'il entre en rapport avec ses collègues, qu'il entre en rapport avec quoi que ce soit, ce signe est toujours là. Amen. À l'heure de la mort, je ne craindrai rien, car tu es avec moi. Ce signe reste là. Quand arrivera la résurrection, il sera là, car Dieu le ressuscitera au dernier jour. Jésus l'a dit, « Quand je verrai le sang, le signe, je passerai par-dessus vous. » Oh, souvenez-vous, si ce signe n'était pas bien en vue, l'alliance même était annulée. C'est exact, l'alliance était annulée. Il n'y avait pas d'alliance tant que ce signe ne se trouvait pas là. Le signe représentait l'alliance. Dieu avait fait une alliance avec eux. Oui, monsieur, mais le signe devait, elle n'était pas en vigueur, l'alliance ne l'était pas, à moins que ce signe ne se trouve là. Peut-être que bien des Juifs auraient pu dire, « Venez par ici, je n'ai pas de sang sur ma porte, mais je veux vous montrer quelque chose. Je suis un Juif circoncis, je suis circoncis. » Cela n'avait pas plus d'importance que ça. Quand je verrai le sang, quand je verrai le signe, peut-être direz-vous, « Je suis baptiste, presbytérien, méthodiste, ou tout ce que vous voudrez. » Mais quand je verrai le signe, vous dites, je suis croyant, ma mère était membre de cette église, mon papa était membre de cette église, j'en suis membre depuis ma plus tendre enfance. Cela n'a pas plus d'importance que ça. Je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, cela n'a pas plus d'importance que ça. Je fais partie du Branham Tabernacle, je fais ceci, cela ou autre chose, je crois toute la parole. Ces Juifs pouvaient bien dire, je crois Jéhovah. Il aurait écouté le message de l'heure s'il l'avait cru. Certainement. Ils avaient eu un grand nombre de messages, mais celui-ci était le message de l'heure. Voyez-vous? Je crois le message de l'heure. Oui, le sang était appliqué au temps du soir. Peut-être qu'ils ont dit, « Je suis juif !» Aujourd'hui, les gens disent, « Je suis chrétien !» Je peux vous montrer ma longue appartenance à l'Église. Dites-moi donc, quand j'ai déjà volé quelque chose ou eu affaire au tribunal. « Montrez-moi donc quand j'ai déjà commis l'adultère. Je n'ai jamais fait toutes ces choses ou quelque chose comme cela. Montrez-moi donc. » Cela ne veut rien dire maintenant. Non, non, voyez-vous. Quelque alliance qu'il ait, l'alliance est sans effet. Elle est inopérante. Vous dites, « Mais moi, j'étudie la Bible. » Peu m'importe ce que vous êtes. Sans cette alliance, la colère de Dieu est sur vous. C'est exact. Elle vous a rattrapé. Oui. Vos péchés vous atteindront. Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Vous n'avez pas cru le message. Vous n'avez pas cru la parole. Vous n'avez pas cru le témoignage du signe lui-même, alors qu'il s'est identifié lui-même au milieu de nous. Avez-vous manqué de croire cela? Vous avez beau ne pas y croire, mais il doit quand même être appliqué. Vous direz peut-être, j'y crois, je crois que c'est la vérité, je l'accepte comme étant la vérité. Tout ça, c'est bon, mais il doit quand même être appliqué. Eh bien, voici un juif qui se tient là, en train de remuer le sang lors de la saignée de l'agneau. Et il dit, ceci est Jéhovah. Et un prêtre se tient là en disant, oui monsieur, je crois que c'est vrai. Mais sur sa propre maison, cela n'a pas été appliqué. Il ne veut pas s'identifier ouvertement avec ce groupe-là. Non monsieur, c'est fanatique avec le sang sur la porte. Il ne veut pas de cette identification-là. Peu importait qu'il fût prêtre, qu'il connût bien la parole, qu'il ait été bien éduqué, quelles œuvres il avait faites, combien il avait donné aux pauvres, combien il avait offert de sacrifices. Paul a dit, « Quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres. J'aurai la foi pour transporter les montagnes, et ainsi de suite. Et je parlerai les langues des hommes et des anges, et toutes ces autres choses. » Il a dit, « Je ne suis rien. » Tant que ce signe n'est pas appliqué, tant que ce signe, c'est de cela que je vais parler ce soir, de l'amour, voyez-vous. Donc, tant que ceci n'a pas été appliqué, je ne suis rien. Peu m'importe, vous pouvez avoir chassé les démons, vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi, vous pouvez avoir fait tout cela, mais si ce signe n'est pas là, vous êtes sous le coup de la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant, vous pouvez vous tenir en chair et prêcher l'évangile. Plusieurs viendront à moi ce jour-là en disant, « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé par ton nom, prêché par ton nom? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom ?» Cela inclut à la fois les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. C'est la condition de Dieu requise pour cette heure. » Le message du temps du soir est d'appliquer le signe. Satan a semé toutes sortes de contrefaçons, des poignées de main, des évidences et des choses de la sorte. Oubliez ça! C'est maintenant l'heure du signe lui-même, non pas quelques contrefaçons, quelques faux-semblants, quelques substituts. C'est maintenant l'heure où le signe lui-même est en train de s'identifier au milieu de nous et de prouver qu'il est le même Jésus hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est tout à fait conforme à la parole. Il doit être appliqué. Que penser d'un homme qui prétend avoir ce signe et qui nie cette parole? Vous ne pouvez pas le faire. Le signe doit être là. Quand je... Le sang vous servira de signe. Maintenant, le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang, vous sert de signe. On y arrivera dans un instant, voyez-vous. Le Saint-Esprit est le signe. L'affaire est classée. Oui, monsieur. Maintenant, rappelez-vous, et je... Peu importe ce que vous êtes, combien vous êtes bon, combien vous avez sautillé, à combien d'églises vous avez adhéré, combien de bonnes choses vous avez faites, cela ne vous sera d'aucun profit si le signe n'est pas appliqué. Nous sommes au temps du soir. Cela fonctionnait bien du temps de Luther. Cela fonctionnait bien du temps de Wesley. Mais ça ne fonctionne pas maintenant. Non. Le fait de garder l'agneau, c'était bien alors. Pour ceux qui sont morts, avant que l'agneau ne soit appliqué, le sang, c'était une autre histoire. Oui, monsieur, ils s'en sont allés avec une bonne conscience. Ils seraient jugés selon s'ils étaient prédestinés, cela les touchait. Sinon, pas. Voilà tout. C'est simplement l'affaire de Dieu. Il justifie qui il veut. Il fait miséricorde à qui il veut. Et il condamne qui il veut. Il est Dieu. Voilà tout. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde et condamne qui il veut condamner. Un juif pouvait montrer clairement par la circoncision qu'il était un croyant. Bien des hommes fondamentalistes, peuvent prendre cette Bible et dire « Je suis un croyant » et Jésus a dit que nous sommes sauvés par la foi et « Je suis un croyant » mais ce baptême du Saint-Esprit, c'est de la sottise. Alors, le signe n'est pas appliqué. Si grande que soit sa foi, elle est annulée. C'est exactement comme la circoncision des Juifs. « Je suis juif, disait-on. Pourquoi est-ce que j'irai là-bas me comporter comme cette bande de fanatiques ?» Moïse parcourait les rues en disant « Le message du soir est là. Il arrivera qu'au bout des 14 jours, vous vous assemblerez et vous immolerez l'agneau. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera, chacun posant ses mains sur lui, s'identifiant avec lui. Et le sang sera appliqué sur le poteau et sur le linteau de la porte. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, car c'est un signe que vous avez accepté la mort de l'agneau que j'ai pourvu pour vous. » Le sang était le signe. Maintenant, l'Esprit est le signe. Vous serez remplis du Saint-Esprit dans peu de jours. Et quand le sang fut répandu, le signe fut envoyé le jour de la Pentecôte, semblable à un vent impétueux. Le thème de chacun des apôtres, c'était « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru ? Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez ce don du Saint-Esprit, car c'est un signe, amen, que vous êtes passé de la mort à la vie. » Voilà, lorsque cette église juive est disparue peu à peu, les gentils ont pris la relève avec cette perversion. Maintenant, elle en est sortie afin de former ce reste des gentils à cause de son nom, l'épouse. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous ce dont parle l'Écriture ici? Si le signe n'était pas montré, alors l'alliance n'était pas en vigueur. Voyez-vous, il doit l'être. Parce que si vous dites que vous croyez et que vous ne suivez pas les instructions de la parole, alors vous ne croyez pas. Voyez-vous, bien que vous soyez circoncis, bien que vous ayez adhéré et ayez été baptisé et fait toutes ces choses, mais encore là, ce n'est pas le signe, le Saint-Esprit. Ce grand érudit dont je vous parlais tout à l'heure continue à me parler. Il dit, « Billy, Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Qu'est-ce que cet homme pouvait faire de plus que croire ?» J'ai dit, « C'est bien vrai, docteur, c'est exact. Il a cru Dieu, la Bible dit. » Vous avez raison. Jusque-là, vous avez raison. Tant que les 12 espions qui avaient été envoyés pour aller explorer le pays de Canaan, tant qu'ils avançaient en direction de Canaan, ils gagnaient du terrain. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la frontière, c'est là que s'est produit leur rejet. J'ai dit, vous, Baptiste, vous êtes dans le vrai, jusqu'au point où vous vous êtes rendus. Mais avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? J'ai dit, souvenez-vous, Dieu a reconnu la foi d'Abraham. Il a cru Dieu et cela lui était imputé à justice, c'est vrai. Mais ensuite, Dieu lui a donné le sceau de la circoncision comme signe, un signe pour lui. Non pas que la circoncision de sa chair eut quoi que ce soit à voir avec son âme, mais c'était un signe qu'il avait, que Dieu avait reconnu sa foi. Et il nous donne le signe du Saint-Esprit, montrant qu'il nous a reconnus en tant que croyants. Car repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous. Vous saisissez maintenant? Les Juifs, peu importe combien ils pouvaient prouver avoir été circoncis, néanmoins, le signe devait être montré. Autrement, l'alliance n'était pas en vigueur. Non, il en est de même maintenant. C'est la même chose. Peu importe ce que vous faites, peu importe combien vous pouvez expliquer la Bible, vous pouvez être un spécialiste de la Bible, comme pas un. Vous direz peut-être, « Je suis un croyant » et tout. Mais le signe est néanmoins exigé. Un spécialiste de la Bible, vous dites, « Ça, c'est quelqu'un de bien, frère Branham. On dira ce qu'on voudra. Il n'y a pas meilleur homme que lui. Je ne l'ai jamais de toute ma vie vu faire quoi que ce soit de mal. Tout cela n'a même pas ça à voir avec Dieu. » Il y a une exigence, une seule, et vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas appliquer le sang sur le linteau de la porte. Le signe ne pouvait pas y être, à moins que l'agneau ne soit mort. Et le sang était un signe positif, que l'agneau était mort. Pas de faux semblant. L'agneau était bien mort. Et le Saint-Esprit est un signe positif, que votre agneau est mort. Et que vous avez reçu le signe sur vous-même, car sa vie même est en vous. Voyez-vous, ce n'est pas du faux-semblant, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de l'imitation, c'est là, vous le savez, le monde le sait, le signe est là. Si bonne que fût la personne, que ce soit quelqu'un qui étudie la Bible, que ce soit quelqu'un du style bon membre d'église, que ce soit quelqu'un de bien, que ce soit un chef de dénomination, que ce soit un membre de la hiérarchie de Rome. Je ne sais qui encore, mais cela ne change rien du tout. Mais Israël, toute personne qui étudie la Bible, sait qu'Israël était un type de l'Église, exactement, en route vers la terre promise. Et c'est là qu'elle se dirige. Or, lorsque arriva le temps du soir et qu'il fallait se mettre en route, il y avait une seule exigence formelle. Peu importe qu'il ait été juif, avec quel soin il avait veillé sur ses récoltes, combien il avait eu d'égards pour ses voisins, tout ce qu'il avait accompli, quel membre d'église exemplaire il était, combien de dîmes il payait, toutes ces choses étaient bien, c'était en règle. Il était un brave homme, reconnu comme tel au milieu des siens, mais sans le signe du sang, il allait périr. Oh, que Dieu m'aide à faire comprendre cela à la fois à ceux qui sont ici présents et à ceux qui écoutent la bande. Peu importe, vous pouvez avoir prêché l'évangile, vous pouvez avoir chassé des démons, vous pouvez avoir parlé en langue, vous pouvez avoir crié, dansé dans l'esprit, mais sans le signe. Vous dites, est-ce possible? Paul a dit que ça l'était. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je donnerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé comme sacrifice, quand j'aurai la foi jusqu'à transporter des montagnes et toutes ces choses, malgré tout, je ne suis rien. Ne vous appuyez pas là-dessus. C'est le signe qu'il faut. Peu importe tout ce que vous pouvez avoir fait, peu importe que vous soyez quelqu'un de bien, quand la colère de Dieu éclatera, elle ne reconnaîtra rien d'autre que le signe. C'est un signe qu'un prix exigé a été payé. Et le prix qui a été payé, c'est la vie de Jésus-Christ. Et il a donné sa vie. Et son esprit revient sur vous, le signe que vous êtes reçu. Et vous portez le signe sur vous, jour et nuit, pas rien que le dimanche. Il est là tout le temps. Vous avez le signe. Le sang vous servira de signe. Vous dites, oui, mais je crois, je suis un croyant. C'est bien. Mais si vous rejetez le signe, alors comment pouvez-vous être un croyant? Cela vous trahit. Voyez-vous, vous avez beau en témoigner, mais cela annule votre témoignage. Que vous étudiez la Bible, que vous soyez quelqu'un de bien, que vous soyez un membre d'église, quoi que vous soyez, cela ne veut rien dire du tout. Oui, monsieur. Peut-être votre père est-il prédicateur. Peut-être votre mère était-elle une sainte. Ça, c'est très bien. Ils devront rendre des comptes pour eux-mêmes. Comme je l'ai dit, les gens essayent de faire de Dieu un vieux grand-papa gâteau bedonnant. Voyez-vous, avec un tas de petits-enfants, des petits Ricky et des petits Elvis. Quelqu'un de tout à fait inoffensif. Pas Dieu. Il n'a pas de petits-enfants. Il est un père. Vous devez naître de nouveau. Il n'est pas gros, mou et gâteux. Il est un Dieu de jugement. C'est la Bible qui le déclare. Sa colère est violente. N'allez surtout pas dédaigner cela et vous attendre ensuite à ce que la bonté de Dieu vous prenne un jour dans votre péché pour vous amener au ciel. Si c'était le cas, il aurait excusé tout ceci et aurait pris Ève. Vous croirez sa parole ou vous périrez. Et quand vous croirez sa parole, le signe sera sur vous. Oui, d'une minute à l'autre, la mort allait frapper l'Égypte cette nuit-là. C'était un moment redoutable. Toutes leurs cérémonies, toutes leurs fêtes, tous leurs jeûnes, Dieu les avait visités. Dieu avait montré ses grands signes et prodiges au milieu d'eux. Qu'est-ce? Maintenant, arrêtez-vous une minute. Dieu leur avait montré sa grâce. Il leur avait donné une chance. Ils ne pouvaient pas repousser cela. Ils ont dit, « Ah, tout cela, ce n'est rien. Ce n'est que sottise. C'est simplement quelque chose qui s'est passé là-haut, dans les cataractes. Une éruption de boue rouge a giclé. Et c'est ce qui a rendu la mer rouge. Ensuite est venue la grêle. Ensuite sont venues les grenouilles. Dieu avait préparé un endroit et placé sa parole dans la bouche d'un prophète. Et quand il parlait, cela arrivait. Et ils ont vu cela. Ils ne pouvaient pas le nier. Ce qu'annonçait Moïse, c'est ce qu'il recevait de Dieu, parce qu'il ne prononçait que la parole de Dieu. Celui-ci avait dit, « Je ferai de toi un Dieu ». Moïse était pour eux un Dieu, voyez-vous. Il ne faisait pas la différence. Alors Dieu a dit, « Tu seras un Dieu, et Aaron sera ton prophète. » Voyez-vous, tu seras comme un Dieu, car je te prendrai, toi, ta voix, et je créerai par toi. Je parlerai, et les gens ne pourront pas le nier, parce que ce sera juste là. Ce que tu diras se produira. Oh là là, voilà, je te montrerai ces choses. Et l'Égypte a vu cela. Ils ont vu cela juste avant le temps du soir, ou juste au temps du soir. Il leur a montré sa bonté. Il leur a montré qu'il pouvait enlever, guérir. Des magiciens ont essayé de faire la même chose. Des imposteurs, on en trouve toujours. Jannès et Jambres se tenaient donc là. Mais pour ce qui est de la chose authentique, ils ne l'avaient pas. C'est exact. Ils ont suivi pour un petit moment, mais au bout de quelque temps, leur folie a été rendue manifeste. Et la Bible ne dit-elle pas que la même chose se produira dans les derniers jours? De même que Jannès et Jambres se posèrent à Moïse. Mais leur folie a été rendue manifeste. Il en sera de même à nouveau. Voyez-vous? C'est ça, des hommes à l'esprit perverti, réprouvés en ce qui concerne la vérité, la réalité. Ils peuvent peut-être avoir des assemblées, des grandes choses imposantes et bien ornées, mais l'heure viendra bien. Tenez ferme avec le signe, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Agrippez-vous à sa parole, ne vous en écartez pas, restez-y accrochés, la Bible l'a dit. La mort était en train de frapper. Dieu leur avait fait miséricorde, leur avait montré de la puissance et des signes. Maintenant, arrêtons donc l'horloge juste quelques instants. Faisons donc un retour en arrière et pensons à ce qu'il a promis qui arriverait dans les derniers jours. Je me demande s'il n'est pas temps pour nous de nous examiner aussi. Il avait fait toutes ces choses et malgré cela, ils n'ont pas voulu se repentir ni croire le message du jour. Malgré cela, ils n'ont pas voulu le faire, malgré que cela avait été mis en évidence devant eux et clairement démontré. Et quand vous voyez de telles choses se produire, c'est signe que le jugement approche. Le jugement suivra ces choses. Il en a toujours été ainsi. Et il n'y aura pas d'exception. Voyez-vous, le jugement suit la grâce. Quand la miséricorde est repoussée, il ne reste plus que le jugement. Par conséquent, il suivra toujours. Maintenant, la scène. Chaque événement spirituel est un signe venant de Dieu. Faites attention, remarquez bien cela. Voyez-vous, surveillez. Chaque événement spirituel, tout ce qui arrive est un signe. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ces choses n'arrivent pas simplement par hasard. C'est un signe. C'est signe que nous devons nous dépêcher de nous mettre à l'abri. Noé était un signe pour sa génération. Élie était un signe pour la sienne. Jean était un signe pour la sienne. Voyez-vous? Tout, le message de l'heure est un signe. Observez-le. Regardez ce qu'il est en train de faire. Voyez-vous? C'est un signe. Tout a une signification. Ce genre de message n'aurait pu venir à aucun autre moment. Il n'aurait pas pu venir au jour de Luther. Il n'aurait pas pu venir au jour de Wesley. Il n'aurait même pas pu venir au jour pentecôtiste. Impossible, voyez-vous, rien de cela n'est arrivé. Mais pourtant, cela nous avait été promis dans la Bible. Voyez-vous, nous sommes à la fin. Rien ne pouvait arriver. Il n'aurait pas pu arriver avant ce moment-ci. Et il arrive en guise de signe. Mais quel est le signe? Oh, mes petits, mon frère, ma sœur, mettez-vous sous le signe sans tarder. Voyez-vous, ne vous contentez pas d'un substitut. Ne faites pas cela. Voyez-vous, ne faites pas juste l'imaginer. Restez là, jusqu'à ce que vous sachiez que le signe est appliqué. Jusqu'à ce que la pensée qui était en Christ soit en vous. Jusqu'à ce que toute la folie du monde soit sortie de vous. Jusqu'à ce que le seul désir de votre cœur soit lui. Alors vous savez que quelque chose est en train de se produire. Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Pas les soi-disant croyants, mais les croyants. Voyez-vous? Or, nous ne voulons prendre aucun risque là-dessus. Ne le faites pas. Le message de l'heure est un signe pour les églises. C'est un signe pour les gens. Est-ce que vous saisissez? J'espère qu'il en va de même pour ceux qui sont à l'écoute de la bande. Voyez-vous, et dans d'autres parties du monde. Voyez-vous, le signe de l'heure est ici. Il y a un signe qui doit être appliqué, et il n'aurait pu venir à aucun autre moment. Remarquez les préparatifs que Dieu a faits pour ce moment-là. Maintenant, comme nous le savons, la Bible dit que toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Vous voyez? Remarquez, lorsque Dieu a été sur le point d'exercer son jugement sur l'Égypte, il a premièrement fait des préparatifs. Qu'a-t-il fait la première fois? Il ne change jamais sa manière de procéder. La première fois, quand il a fait ses préparatifs, il a envoyé un prophète muni d'un message. La première chose qu'il a faite pour son peuple a été d'envoyer un prophète muni d'un message. Ce qu'il a fait ensuite pour identifier ce prophète, c'est qu'il a envoyé une colonne de feu en guise d'identification, pour l'identifier. Et la troisième chose qu'il a envoyée, le signe. C'est tout à fait juste. Le signe. Que signifiait le signe? L'assurance. Premièrement, son prophète muni d'un message. Il s'est identifié lui-même au moyen d'une colonne de feu avec son prophète. Ensuite, il a envoyé un signe. Il fallait se placer sous ce sang qui montrait qu'il avait accepté la mort de ce substitut à votre place. Alors le sang était un signe qu'il regardait, qui montrait que vous aviez entendu le message, que vous aviez cru à la colonne de feu, et que vous aviez accepté le substitut qu'il avait pourvu pour vous. Et vous étiez sous le sang des composants chimiques même de la vie qui avait été donnée pour vous. Oh, combien parfait! Combien parfait! Voyez-vous, vous êtes sous le sang. Maintenant, vous êtes sous l'Esprit, sous le Saint-Esprit. Voyez-vous? Voyez-vous? Vous croyez le message du jour. Voyez-vous? Vous croyez à la puissance, à la colonne de feu. Vous croyez cela. Voyez-vous? Vous croyez. Maintenant, regardez. Y croire simplement, ce n'est pas suffisant. Ne pas circuler où cela se trouve, ce n'est pas suffisant. Voyez-vous? Cela ne fera que vous rendre pire. Car celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Voyez-vous, ce sont ces croyants frontaliers. Jésus en a aussi parlé. Hébreux chapitre 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et le siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et tiennent pour profane l'alliance du sang par lequel ils ont été sanctifiés. Ce sont les composants chimiques qui sanctifient. Ce n'est pas le signe. Maintenant, le sang n'est pas le signe. La vie est le signe. La vie ne pouvait pas se trouver là, puisqu'il s'agissait d'un animal. Les composants chimiques étaient le signe. Il fallait appliquer du vrai sang sur la porte. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous y arrivons dans une minute. Nous allons le prouver, voyez-vous. C'est la vie qui est le signe. Votre vie s'en est allée. Et vous êtes mort. Votre vie est morte. Vous êtes caché en Dieu, par Christ, et scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. La pensée qui était en Christ est en vous. Et Christ, et la Bible, et la parole sont une seule et même chose. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors vous, et la parole, et Dieu, et Christ, êtes une seule et même chose. Et si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voyez-vous? Il a mis la puissance dans la bouche de Moïse, et muni de sa parole, celui-ci est allé de l'avant. Il a parlé, et les grenouilles sont venues. Il a parlé, et les grenouilles sont parties. Il a parlé, et les poux sont venus. Il a parlé, et les poux sont partis. Amen. Mais ensuite, le signe fut exigé de tout Israël. Le signe était obligatoire pour tout Israël. Et quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Oh là là! Quelle assurance! La sortie d'Égypte, d'Israël, était un type de l'antitype d'aujourd'hui. L'Égypte, c'était l'Église, et Israël représentait l'épouse. Et de même qu'Israël est sorti de l'Égypte, l'épouse sort de l'Église. Voyez-vous? Il faut donc qu'il y ait là quelque chose dont elles doivent sortir, et elle doit en sortir, puisque c'était un type. L'Église est là-bas en Égypte, dans le monde et dans le péché. Et elle ne se soucie pas le moins du monde de votre signe. Ils n'y croient même pas. Mais Israël l'aimait, car c'était leur salut. Oh, cela devrait nous rendre heureux. Notre cœur devrait... Oh, Église, appliquez-le. N'y manquez pas, s'il vous plaît. Ne laissez pas le soleil se coucher. Ne, n'ayez point de repos, ni le jour, ni la nuit. Ne prenez aucun risque. Ça ne fonctionnera pas, mes enfants. Ça ne fonctionnera pas. Vous devez avoir le signe. Vous dites, je crois. Oui, je vais, je... Oui, je crois le message. Je... C'est très bien ça, mais c'est bien. Mais vous devez avoir le signe. M'entendez-vous, Branham Tabernacle? Vous devez avoir le signe bien en vue. Sans lui, toute votre foi est vaine. Voyez-vous? Vous mènerez une bonne vie. Vous écoutez ce que dit la parole. Vous allez à l'église. Vous essayez de vivre correctement. C'est très bien. Mais il ne s'agit pas de cela. Quand je verrai le sang, c'est-à-dire le signe, Et le signe dont il est question ici, ce n'est pas parce que il devait en voir les composants chimiques, parce que la vie s'en était allée, l'avait quitté, puisque c'était un animal. Mais dans ce cas-ci, sa propre vie se trouvait dans le sang. Les composants chimiques ne faisaient que signaler ou n'étaient qu'un signe de la sanctification. Mais la vie elle-même est le signe. Car sans la circoncision, sans le signe, vous n'êtes même pas dans l'alliance. Tout cela fonctionne ensemble. Si vous dites que vous êtes circoncis, consacré à la parole et à elle seule, alors vous croirez la parole. Si vous croyez la parole, alors le signe se doit de venir. Car il a dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà. Oh là là! Remarquez donc les préparatifs pour son peuple destiné à la terre promise. Remarquez ce qu'il a fait. Premièrement, il avait un peuple pour lequel il avait fait un pays. Il leur avait préparé un pays. Et il a envoyé ce qu'il fallait pour le préparer, pour préparer le peuple qui était destiné à la terre promise. C'était seulement pour ceux qui étaient prédestinés à entrer dans cette terre promise. Et comment s'y est-il pris? Il a envoyé un prophète muni d'un message, l'a identifié par une colonne de feu, et leur a donné un signe afin qu'ils puissent être certains que c'était juste. C'est exact, c'était leur consolation. Israël, sortant de l'Égypte, était un type. Ceci est l'antitype, l'Église sortant des dénominations. Or, ce ne sont pas toutes des dénominations. Je veux dire, l'épouse. Voyez-vous, certains de ces indépendants sont aussi mauvais que ceux des dénominations, parfois même pires. Ce dont je parle, c'est du signe appliqué. Le signe est d'accord sur chaque parole. Voyez-vous, il faut qu'il en soit ainsi, puisqu'il est la parole. Il est la vie qui était dans la parole. Mes paroles sont spirituelles, elles sont vie, a dit Jésus. Voyez-vous, quand Moïse a commencé son ministère parmi le peuple d'Israël, accompagné de grands signes, vous voyez, Israël est venu de toute l'Égypte, se rassemblant rapidement en Goshen. Ils sont revenus dans leur patrie, parce qu'ils savaient que quelque chose allait se produire. Oh, quel type! Oh, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. C'est vrai, vous connaissez ce chant, à la fête du roi, manger à sa table, que ces pèlerins sont bénis, contemplant son saint visage, brillant d'un éclat divin, participant de sa grâce, les joyaux de sa couronne. Oh, Jésus reviendra bientôt, alors nos peines finies. Oh, si notre Seigneur venait maintenant pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous dans la joie ou le chagrin, la peine? Quand il viendra dans la gloire, nous le rencontrerons là-haut, montrant le signe. Et je le ressusciterai au dernier jour. Certainement, nous sommes en ces jours-là. Le peuple s'est rassemblé en Goshen. Ils étaient prêts. Ils savaient que quelque chose allait se produire. Ils étaient comme, prenez par exemple les canards. Quand vient le moment d'émigrer, ils partent ensemble, tous en même temps. Quand les abeilles et tout s'apprêtent à partir, il y a un instinct qui les attire. Le Saint-Esprit attire les gens. Quand est venu le moment où la grande colère de Dieu allait être déversée, voici venir deux canards, un mâle et une femelle. Voici venir deux oies, un mâle et une femelle. Voici venir deux chevaux, un mâle et une femelle. Quelque chose les attirait. Ils étaient prédestinés. Les autres ont péri. Oh! Les autres ont péri, mais ceux qui se sentaient attirés à entrer, eux savaient que l'arche avait été préparée. C'était un signe que la pluie allait venir. Ils savaient que la pluie allait venir, quelles que soient les apparences et ce que pouvaient bien en penser les autres gens. Ils savaient. Quelque chose à l'intérieur d'eux disait, entre vite à l'intérieur. Entre, parce que ce sera le seul endroit où on pourra trouver la sécurité. C'est que Dieu avait préparé un prophète. Il avait envoyé l'arche comme signe. Il leur a dit, entrez-y, la pluie allait venir. Et ils y sont entrés, deux par deux. Tous les animaux sont entrés deux par deux dans l'arche. parce qu'ils étaient entrés à l'intérieur, sans se soucier de ce que les autres et tous ceux qui étaient en dehors de l'arche ont péri. Tous ceux qui étaient en dehors du signe du sang ont péri. Tous ceux qui seront en dehors du signe du Saint-Esprit périront, peu importe qu'ils soient bons ou qu'ils soient de fidèles membres d'Église. Il y en avait beaucoup à l'époque de Noé. Il y en avait beaucoup à l'époque de Moïse. Mais si un homme omettait d'appliquer le sang, le signe, cet homme-là périssait. Ceux qui ont omis d'entrer dans l'arche ont péri. Ceux qui omettent d'entrer en Christ, car il est l'arche. 1 Corinthiens 12 dit, « Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. » Non pas l'Église, non pas les dénominations, mais le corps mystique de Jésus-Christ, dans un seul esprit, E majuscule S-P-R-I-T, esprit. Nous sommes tous immergés pour former ce seul corps. Alors le signe est sur la porte, car vous êtes en Christ. Et il est celui qui s'est tenu là, votre sacrifice, et qui a pris le jugement sur lui. Et quand Dieu regarde cela, il ne peut rien faire. Vous êtes en parfaite sécurité, puisque Dieu et Christ sont une seule et même personne. L'Esprit a été fait chair et a habité parmi nous. Et voici Dieu avec lui-même et vous, ses propres enfants, dans le corps. Voilà, non pas des composants chimiques, mais l'Esprit. Je passerai par-dessus vous. Ils sont venus de toute l'Égypte pour se rassembler à cet endroit-là, pour pouvoir être sous ce signe. Et ils sont venus des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des luthériens, des pentecôtistes et tout, pour se placer sous le signe, exactement comme il en était alors. La colonne de feu était représentée là-bas. L'un en a parlé à l'autre, et ainsi de suite, de bouche à oreille, ils se sont répété la chose. Et bientôt, ils ont tous commencé à venir. Ils ont commencé à venir, et ils ont observé le signe de Dieu. Ils ont dit, « Le jugement est proche ». Alors le prophète a dit, « Dieu m'a parlé, il y aura un signe, vous mettrez du sang sur la porte, vous immolerez l'agneau et mettrez du sang sur la porte, et ce sera un signe, parce que la mort va bientôt frapper. Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui, en tant que son serviteur. À moins que le signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Et toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela. Rappelez-vous, pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu'elles en font déjà partie, montrant par là qu'elles sont mortes. Elles ont péri, elles ont sacrifié, elles sont retournées en arrière. Elles l'ont mise à la porte. Or lui, il cherche le signe. C'est qu'ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langue. N'allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langue ou sur n'importe quoi d'autre. Mais laissez le signe lui-même être là, la personne de Jésus-Christ, sa propre vie en vous. Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu'à ce que vous et Christ soyez un. Christ est en vous et sa vie se manifeste à travers vous. Maintenant de partout en Égypte, et regardez, comme nous voyons ce qu'ils ont fait, et que nous voyons apparaître le moment, nous recevons l'ordre de faire la même chose qu'eux. Saviez-vous cela? Voyez ce qu'a dit le prophète. Nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien, dans Hébreux chapitre 10. Et si vous voulez lire avec moi, je veux en lire un verset ou deux avant de continuer. Hébreux chapitre 10. Et commençons depuis le verset 26 du chapitre 10 de Hébreux. Non, je... Voyons voir. Oui, oui, Hébreux, chapitre 10, et le verset 26. Voyez-vous? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu... Voyons voir. Est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez bien, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane l'alliance du sang par lequel il a été sanctifié? et qui aura outragé l'esprit de la grâce qui est venu du sang. Vous, ministre de l'Évangile, membre d'Église, homme de bien, homme de haute moralité, qui que vous soyez, si vous savez que Dieu vous a délivré de la cigarette, et vous, femme, si vous savez qu'il vous a délivré du port des shorts et des cheveux courts et tout, si vous savez que c'est lui qui l'a fait, mais qu'ensuite vous faites demi-tour et l'outragez, que vous tenez pour profane le sang de l'Alliance qui vous a sanctifié et vous a amené jusque-là. C'était pareil dans le cas des espions. Si après s'être rendus à la frontière du pays, ils regardaient de l'autre côté et disaient « Oui, je sais que le pays est là, mais il y a trop d'obstacles. Nous sommes comme des sauterelles. » Alors, ils périraient dans le désert. Des croyants frontaliers, ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire « Je crois le message, mais obéissez au message. » Entrez en Christ. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message, prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est juste. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends ceci, ce message-ci, à vous apporter. Voyez-vous, vous avez vu les signes du temps de la fin, et je voulais prêcher, et je voulais démontrer par tout ce que Christ a dit. N'est-ce pas vrai? Vous en conviendrez, nous sommes au temps de la fin, je ne vois pas ce qui peut encore rester. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra plus tard. Voyez-vous, en Israël, quand sonnait la trompette lors de l'année du Jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué Christ, lorsqu'il a lu cela, il n'en a lu que la moitié, parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-vous, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, et ainsi de suite. Voyez-vous, mais il est pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais le reste, il ne l'a pas lu, il a posé le rouleau, car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous, il n'en a lu qu'une partie, la partie qui concernait son jour. Maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Voici de quoi il parle à l'Église aujourd'hui, par son esprit oint. C'est maintenant l'heure, c'est maintenant le moment. Recevez-le, vous tous, recevez-le. Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fin qui est là. Les lumières rouges qui clignotent partout, sur la nature. Nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière. Le temps est proche. Nous voyons cela sur l'Église. La lumière clignote. Elle est condamnée. Le temps est proche. Elle est dans le monde. Nous voyons cela dans les cieux, sur la mer, chez les nations, partout. Dans le soleil, la lune, les étoiles, des signes. Nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit revenu sur les gens, ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine, là-bas. Dieu manifesté dans la chair. Dieu, en ce jour, se ferait homme dans son épouse et montrerait le même signe. Jésus a dit qu'il en serait de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même en a pris des photographies, et ainsi de suite. Nous voyons les signes du temps de la fin proche. Nous savons que nous y sommes. Et donc, en voyant ceci, si vous me croyez, si vous ne me croyez pas, croyez les signes, croyez la parole, car ils témoignent de ce que je vous dis. Si je ne vous disais pas la vérité, ils n'en témoigneraient pas. Dieu ne témoignera jamais d'un mensonge. Dieu témoigne de la vérité. Et ces paroles rendent témoignage que je vous dis la vérité. Elles rendent témoignage de ce message que je prêche. Pas seulement l'ange qui se trouvait à la rivière ce jour-là et qui a dit « Ton message préparera et précédera la seconde venue de Christ », mais les œuvres elles-mêmes. Si vous ne pouvez pas croire que cet ange a dit la vérité, croyez les œuvres, car la Bible a déclaré que ces choses arriveraient à la fin des temps. Ce sont elles qui rendent témoignage. Ce sont elles qui parlent plus fort que mes paroles ou celles de n'importe qui. C'est sa parole. Elles rendent témoignage du temps. Et nous voyons les grands et horribles signes de la fin sur les gens et les signes du temps sur la terre, de l'angoisse chez les nations. Nous voyons Israël de retour dans sa patrie. Son drapeau flotte, l'étoile à six branches, l'étoile de David, le plus vieil étendard du monde, le plus vieux drapeau du monde. Il est une nation, il a son gouvernement, il est un peuple libre, il est membre de la Société des Nations. Il est tout cela, il est membre de l'ONU, il possède sa propre monnaie, tout. Jésus a dit, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Et souvenez-vous, la nuit même où Israël est devenu une nation, c'est la nuit où l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas. C'est exact. Voilà où nous en sommes. Tout a été démontré comme étant l'exacte vérité. Je ne vous ai pas menti. Je vous ai dit la vérité. Dieu a attesté que je vous ai dit la vérité. Maintenant, rappelez-vous, je suis votre frère. Je suis un homme, voyez-vous. Je ne suis qu'un homme, comme vous tous. Mais il faut bien que quelqu'un apporte cela. Il faut bien que quelqu'un le dise. Ce n'était pas mon choix, mais c'était son choix à lui. Je vous ai dit la vérité, et sans hésiter, il a rendu témoignage que c'est la vérité. Tandis que nous voyons ces choses se passer sur la terre, aujourd'hui, oh, ami, c'est la dernière heure. Revêtez-vous de ce signe au plus vite. Ou, vous, entrez dans le signe, entrez dans le signe. Tandis que nous voyons le grand signe de la fin, qui nous montre que le temps est proche, qui nous met en garde. Le temps est proche. Oh, prenez ces choses au sérieux. Nous devrions nous aimer les uns les autres. Oh là là, nous devrions être tellement amoureux. Ne dites jamais de mal les uns des autres. Si quelqu'un fait une erreur, priez pour lui tout de suite. Cela nous concerne tous en Dieu. Nous sommes frères et sœurs. Oh, ayez une vie sainte. Vivez. Vivez comme des filles de Dieu. Vivez comme des fils de Dieu. Vivez dans la douceur, la bonté, l'humilité. Ne laissez aucun mal entrer dans votre esprit, dans votre pensée. Chassez-le simplement. S'il frappe à la porte, renvoyez-le. Dites simplement, montrez simplement votre signe. Continuez simplement à avancer. Je suis sous le sang. Rappelez-vous, ce soir-là, beaucoup se sont présentés chez ces femmes en disant, « Hey, Gertie, Lily, les filles, sortez un peu. Nous allons à une fête ce soir. » Non, non, je suis sous le sang. Je suis sous le signe et je dois rester ici. Je garde mon amour pour mon Créateur. La mort plane sur le pays ce soir. Et la mort plane sur le pays aujourd'hui. Le jugement se tient là. Il est suspendu sur nous. La bombe atomique, la bombe à hydrogène, toutes sortes de désastres guettent les nations. Et Dieu est en train de remuer son Église. Et il a montré tout. Il y a maintenant un bon bout de temps que nous gardons l'agneau. Nous avons observé, vu ce qu'il fait, considéré sa nature et tout. Mais à présent, le signe doit être appliqué. Il doit être appliqué. C'est la seule chose à faire. Si un homme ne naît de l'esprit et d'eau, il n'y entrera point. Vous devriez vous aimer les uns les autres. Les croyants devraient se séparer du monde. Maintenant, ne le prenez pas à la légère. Vous tous qui êtes en train d'écouter la bande, vous hommes, vous femmes, écoutez bien une minute. Si à un certain moment vous m'avez cru, croyez-le maintenant. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la Bible. Croyez Jésus-Christ. Et aimez-vous, et honorez-vous, et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Respectez votre foyer, rassemblez votre maison, parce que, souvenez-vous, cet agneau était pour la maison, pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison qui devait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Nous devrions nous aimer les uns les autres, et les croyants devraient se séparer du monde. Remarquez, ils ne s'étaient pas assemblés simplement pour parler ensemble du message. Ils s'étaient assemblés pour appliquer le sang. Pour appliquer le signe, c'est ce que vous devez faire. Pasteur Neville, et vous tous de cette assemblée, les administrateurs, les diacres, vous les frères, il est temps pour nous de mettre de côté toute la folie du monde, de mettre de côté tout le reste. Nous avons vu assez de choses maintenant pour être absolument sûrs. Le signe doit être appliqué. Sans lui, vous périrez. Vous périrez. C'est inévitable. Oh, Ne vous contentez pas de vous réunir en disant « J'y crois ». Mettez-vous dessous, entrez-y. Comment faire cela? D'un seul esprit, nous sommes baptisés pour former le corps de Jésus-Christ. Que chacun croit de tout son cœur. Voyez-vous? Il n'était pas responsable de quiconque ne se trouvait pas sous le signe. Qui est-ce qui parlait? Des ondes courtes d'en haut? Par le haut-parleur. Ils ont cela à l'intérieur? J'ai entendu quelqu'un. Des ondes courtes, oui. Oh, ils sont reliés. Je suppose qu'ils... Oh, aux automobiles. Excusez-moi, je savais que quelqu'un avait dit quelque chose. Et je pensais que quelqu'un voulait me dire quelque chose qu'il n'avait pas compris, voyez-vous. Et c'est pourquoi j'ai dit cela. Je vous ai vu regarder autour. J'ai entendu une voix. J'ai pensé que quelqu'un s'était levé pour dire quelque chose. Et je ne savais pas ce que c'était. Bien, maintenant, merci. Mais croyez, mettez-vous dessous. Israël ne s'est pas réuni en disant « Allons donc tous jusqu'en Goshen aujourd'hui. Nous allons faire une balade jusqu'en Goshen. Prenez votre chameau et nous prendrons notre char à bœufs. Nous prendrons avec nous les Jones ici et les Goldberg. Et nous irons tous jusqu'en Goshen. Vous savez quoi? Moïse va parler aujourd'hui. Ce n'était pas cela du tout. Oh non, mon frère. C'était « Mettez-vous sous le sang. » Oh oui, non pas d'en parler, mais d'y entrer. Que l'un d'eux dise, « Vous savez, Monsieur Goldberg, je sais pertinemment que c'est la vérité. » Oui, frère, je crois que c'est la vérité. Je sais que c'est la vérité. Monsieur Lavinsky, qu'en pensez-vous? C'est la vérité absolue. J'ai vu la puissance de Jéhovah Dieu en témoigner. J'ai vu les grenouilles sortir de ce pays. Je sais que ce n'est pas arrivé tant qu'il ne l'a pas dit. Et je sais que ça, c'est Jéhovah Dieu. Tout cela, c'est très bien. Êtes-vous circoncis? Oui, monsieur. Êtes-vous un croyant? Oui, monsieur. Ensuite, il a entendu parler le pasteur Moïse ce jour-là, et celui-ci disait, « Mais il faut se mettre sous le sang, car Dieu a dit, le sang est un signe, c'est un signe. Peu importe combien vous pouvez croire, peu importe que vous soyez circoncis, c'est ce que Dieu a donné à Abraham comme alliance, et ainsi de suite. C'est une alliance, mais vous devez vous mettre sous le sang, qui est un signe, car il a dit, « Quand je verrai le sang, je passerai. » Israélite ou pas. Autrement dit, dénomination ou pas de dénomination, peu importe, vous devez venir vous mettre sous le sang. Que vous soyez méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, que vous ne fassiez partie d'aucune dénomination, peu importe, c'est une affaire individuelle. Vous devez venir sous le sang. Ne vous contentez pas d'en parler, recevez-le. Écoutez-moi, écoutez-moi, au nom du Seigneur, écoutez-moi, voyez-vous? Vous devez venir sous le sang. Il n'était responsable d'aucune personne qui n'était pas sous le sang. Dieu avait été très clair. Tous ceux qui ne seraient pas sous le sang périraient. Puis-je utiliser ces paroles? Tous ceux qui sont en dehors de Christ périront. Comment entrez-vous en Christ? 1 Corinthiens 12, par un seul esprit. Non pas par une seule poignée de main, ou par une seule adhésion, ou par une seule dénomination. C'est ainsi qu'ils essayent de l'interpréter. Ils auront beau faire. Mais d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps. Si un ange du ciel enseigne quoi que ce soit d'autre, a dit Paul, qu'il soit anathème. Voilà le message. Entrez en Christ. Écoutez, Dieu n'était responsable d'aucun de ceux qui étaient en dehors du signe. Et Dieu n'est responsable de personne, grand ou petit, populaire ou impopulaire, riche ou pauvre, esclave ou libre, homme ou femme. Il n'est responsable de personne qui ne se trouve pas sous l'alliance du signe. Il n'en est pas responsable. Vous dites, « Oh, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai chassé des démons. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai prêché l'Évangile. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Il ne reconnaît que le signe. Comprenez-vous bien ce que je dis? Dites, « Amen. » Donc, à vous de jouer maintenant. J'étais dans les bois l'autre jour, et les frères se demandaient. Ils m'ont dit, « Nous sommes là depuis 2 jours, et je n'avais même pas tiré un écureuil. » Ils disaient, « Qu'est-ce qu'il y a? » Voyez-vous, c'était ça. Voyez-vous? Il m'a dit, « Envoie la balle dans leur camp. » Dans leur camp. Tu m'en as parlé. Voyez-vous, maintenant c'est à vous de jouer. C'est sur vos bras. Il ne reconnaîtra rien d'autre que cette alliance du Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas recevoir cette alliance à moins que vous soyez sauvés, sanctifiés et baptisés dans le corps. Il ne le fera pas. Vous pouvez en avoir une imitation. Vous pouvez éprouver un sentiment de bien-être, sautiller, parler en langue et danser dans l'esprit. Cela n'a absolument rien à voir. Écoutez, au nom du Seigneur, Dieu ne reconnaît pas ces choses. Les païens en font autant. Les sorciers en font autant. Vous dites, je suis un érudit, je fais ceci, cela ou autre chose. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire que vous soyez un érudit? Le diable aussi en est un, voyez-vous? Il ne reconnaît rien d'autre que le signe. C'est le message de l'heure. C'est le message de ce jour-ci. C'est le message de notre temps. Au nom de Jésus-Christ, recevez-le. Non pas un substitut, quelque chose que le diable peut mettre sur vous. Il vous donnera, par exemple, un faux amour qui fera qu'un homme se mette à aimer une autre femme que la sienne, ou qu'une femme se mette à aimer quelqu'un d'autre que son mari. Quelque chose de déshonorant comme cela. Ce n'est pas du véritable amour. Ça, c'est le diable. Ce sont ses œuvres. C'est quelque chose qu'il a essayé de vous passer à la place. Il vous donnera une joie, un sentiment de bien-être que vous procurera le fait de boire. Vous direz, j'ai le cafard, je vais aller me chercher un litre d'alcool pour oublier. Ça, c'est la mort. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui, voilà notre force. Le secours me vient de l'Éternel. Vous, les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Puisez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. C'est une alliance. Le signe sur la porte. Il n'est pas responsable d'une seule personne. Même pas une. Qui que vous soyez, il n'est pas responsable si vous n'êtes pas dessous. Et souvenez-vous, toute la famille était rassemblée. Oh là là. Oh, souvenez-vous, vous dites, mais mon papa est prédicateur, mon frère, mon pasteur, mon... Oui, c'est peut-être vrai, mais qu'en est-il de vous? Rappelez-vous, il n'était en sécurité que lorsque le signe était offert à la vue. Si un homme était ici, dessous, et que son fils soit de l'autre côté de la rue, celui-ci était en danger. Il périrait. Son papa, lui, serait en sécurité. Mais si c'était le fils qui était ici et que son papa se trouve là-bas, c'est le papa qui périrait. Seulement le signe. Quand je verrai le signe, je passerai par-dessus vous. Rien d'autre que cela. Vous dites, « Oh, mon fils est prédicateur. » Vous, les mères, vous dites, « J'ai le meilleur des fils, la meilleure des filles. » C'est moi qui vous le dis. Il n'y a pas plus gentil. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et il y a en eux un tel amour. Ils sont obéissants. Je n'ai jamais vu. Mais qu'en est-il de vous, maman? Vous dites, ma mère est gentille comme tout. Je sais que si elle meurt, elle ira au ciel parce qu'elle possède vraiment le signe, frère Branham. Mais qu'en est-il de vous, chère sœur? Toute la famille doit être amenée dessous. Êtes-vous fatigué? Il est midi. Encore une minute. Je pourrais terminer maintenant et reprendre ce soir. Mais si vous voulez bien attendre encore juste un petit peu, j'essaierai de me dépêcher. J'aimerais dire certaines choses là-dessus maintenant, parce que je pense qu'il est préférable de vous le donner tout de suite, tandis que vous êtes sous cette onction-là. Seulement quand le signe est déployé. Et puis, toute la famille doit se trouver sous ce signe, ce sang. Papa, maman, je sais ce que vous ressentez. J'ai moi-même des enfants. Je tiens à les voir sauvés. Je parle pour moi aujourd'hui. Voyez-vous, j'ai des frères, j'ai une sœur, j'ai des bien-aimés. Je veux les voir sauvés aussi. Mais rappelez-vous que si le signe n'est pas déployé, ils périront. Il n'y aura pas de résurrection pour eux. C'est exact. Ils sont perdus. Ce n'est que lorsque le signe est déployé. Prenez par exemple dans Josué. J'aimerais avoir le temps de lire cela. Notez-le, Josué chapitre 2. Le cas de la prostituée Rahab, la croyante non-juive. Oh, comme j'aimerais qu'il ne soit que 9 heures. J'aimerais prendre ce cas et vous montrer ce qui en était, voyez-vous? s'être resituée, une païenne. Regardez bien, toute sa famille, elle était une croyante. Toute sa famille devait se réunir sous ce fil cramoisi, ce signe. Ils devaient se placer dessous, sinon ils périraient. Ils avaient entendu parler de la colère de Dieu. Ils avaient entendu parler des signes et des miracles que Dieu avait manifestés au milieu de son peuple. Et ils devaient recevoir cela. Elle devait recevoir cela. L'ange destructeur de Dieu allait venir. Ils le savaient. Et Josué était cet ange. Ils étaient sur les rangs. Et toutes les nations de ce monde sont sur les rangs pour recevoir le jugement de Dieu. Cette petite prostituée en avait entendu parler. La foi vient de ce qu'on entend. Elle a dit, « Tout le pays tremble devant vous. » C'est juste. Maintenant, les espions qui avaient été envoyés pour préparer le terrain, et ainsi de suite, elle a honoré ces hommes. Elle voulait être sauvée. Elle a dit, « Je sais que votre Dieu est Dieu. » Et j'ai entendu parler des grandes choses qu'il a faites. Je sais ce qu'il a fait à Og, et je sais ce qu'il a fait à différentes nations. Et je vois que ceux qui l'acceptent sont sauvés, et que ceux qui ne l'acceptent pas sont détruits. Et je veux vivre. Oh là là, voilà, je veux vivre. Remarquez, Jéricho avait entendu parler de ce que Dieu faisait, mais il ne voulait pas écouter l'avertissement. Et il n'y a pas une seule dénomination au pays tout autour qui n'ait entendu parler de ce que Dieu est en train de faire. Ils ne veulent pas écouter l'avertissement. Sa grande puissance et ses grands signes avaient été montrés. Qu'avait-il fait? Il leur avait fait traverser la mer morte à pied sec. Il avait causé, créé différentes choses, fait apparaître dans les airs des grenouilles, des poux, des mouches. Il les avait créées par sa parole, par l'entremise de son prophète. Ce n'était un secret pour personne. Ils connaissaient ces choses. Et Rahab a dit, « J'ai entendu parler de cela. Je ne veux pas périr avec ces incrédules. » Non, elle savait que le jugement allait suivre. Il était inévitable. Il venait droit sur eux. Elle le savait. Ils lui ont donc donné le moyen d'échapper. Ils s'étaient probablement imaginé que leur grande dénomination de Jéricho pourrait résister à la colère de Dieu. Voyez-vous, leur propre grande dénomination, c'est ce que beaucoup d'entre eux pensent aujourd'hui. Oh, certainement que Dieu ne fera pas cela. C'est ce que Satan a dit à Ève. Oh, certainement que Dieu ne... Il le fera, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Voyez-vous, et c'est sa parole. Oui, monsieur. Si un homme ne naît, et voici les signes qui accompagneront ceux qui sont nés, voyez-vous? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, et ainsi de suite, voyez-vous? Très bien, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Oh, qu'est-il arrivé? On les a fait taire! Pas question d'avoir un réveil ici. Notre dénomination ne donnera pas son appui à ce genre de choses. Nous ne permettrons pas ce genre de bêtises au milieu de nous. Je vous interdis à tous d'aller à cette réunion. Voilà Jéricho, bien engagé sur le chemin de la damnation. Mais quelques frères, avec des bandes magnétiques, ont dû réussir à s'infiltrer quelque part pour les semences prédestinées. Ils ont fait un saut jusque chez elle et ont joué quelques bandes. Elle a fait de sa propre maison une église destinée à recevoir le message. Il y en a encore aujourd'hui, vous savez. Le message est parvenu aux semences prédestinées de toute façon. Nous ne savons pas comment il y est parvenu. Mais il y est parvenu, afin que les justes ne périssent point avec les injustes. Et Dieu veille à cela aujourd'hui. Oui, d'une manière ou d'une autre, le message s'infiltre. Nous ne savons pas comment, bien qu'ils refusent d'y donner leur appui. Mais il y a des semences, là au dehors, qui sont prédestinées. Quiconque a la moindre connaissance de la Bible sait que cette prostituée était prédestinée. Certainement qu'elle l'était. Elle ne... La Bible dit, elle ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru. C'est exact. Mais elle a cru le message de l'heure. Et Dieu lui a donné un signe par ses messagers. Prends un cordon de fil rouge cramoisi et attache-le à ta... Souviens-toi, si tu n'attaches pas ce cordon-là, ou si tu ne le laisses pas là, à l'endroit où nous nous sommes échappés, nous serons quittes de notre serment. Et ils ont dit, si tu n'es pas dessous, nous ne serons pas responsables. Oh là là! Rab, pars à la recherche de chaque semence prédestinée qui se trouve ici. Va chercher ton papa, ta mère, car nous venons juste de sortir d'Égypte sous cette expiation, et tout ce que nous n'avons pu mettre sous ce signe a péri. Rab, je te donne un signe. C'est un signe. Et je dis au nom du Seigneur, je te le dis, si tu places ce, je connais le messager, je connais l'ange de la colère, Josué, il est le messager de Dieu qui apportera la destruction. Je le connais. Et il sait qu'il doit y avoir quelque chose comme signe. Accroche cela là, et je peux t'assurer, j'en fais le serment. Et Dieu aussi a prêté serment, déclarant que ceux qui ne seraient pas sous le signe périraient, et que tous ceux qui seraient dessous vivraient. Et maintenant, le même serment tient aujourd'hui, la même chose. Je ne vous laisserai pas périr avec ceux qui ne croient pas le message. Et elle avait entendu parler des œuvres qui avaient été accomplies, et elle y a cru. Mais à peu près, elle a été, elle et son père, et deux ou trois de ses frères, ou quelque chose comme cela, sont les seuls qui ont cru, dans toute la ville. Vous voyez comme il y en a peu? Seulement un, ici et là. Une petite famille sortira d'un état. Est-ce juste? C'est tout à fait juste. Nous laissons parler les faits. Nous, si vous voulez voir l'antitype, il vous faut d'abord voir ce qu'était le type. Il faut que vous voyez l'ombre, ensuite vous savez à quoi ressemblera la chose réelle. Voyez-vous? Sa puissance avait été montrée. Le jugement était imminent. Il fallait qu'il croie pour être sauvé. Oui, monsieur. Et ces petits, ces jeunes gens sont entrés, ces messagers, et ont attrapé la semence prédestinée, ceux qui croyaient. Elle s'est servie de sa maison comme église pour recevoir ces messagers. On ne les aurait pas laissés entrer dans les églises. Non, monsieur. Voyez-vous? Alors, ils ne vous laisseront pas entrer non plus. Ils vous chassent dès que vous dites quoi que ce soit là-dessus. Voyez-vous? Ils ont fait entrer sous le signe tous ceux de sa ville qui ont voulu croire. C'est exactement ce qu'il nous faut faire aujourd'hui. Si vous voulez que quelqu'un parmi vos bien-aimés soit sauvé, vous feriez bien de les faire rentrer tout de suite. Voyez-vous? Quand la colère de Dieu a détruit cette grande ville, le signe a protégé sa maison. Amen. Qu'était-ce? Le signe était sur son signe, ou plutôt, le signe était sur sa maison, tandis que le reste de la ville a été complètement rasé. Qu'était-ce? Qu'était-ce? Josué, le messager de Dieu. Dieu lui-même a authentifié le message de son messager. Amen. Cela l'a confirmé. Cela l'a confirmé. Ils ont authentifié le message. Il a authentifié le message de son messager. Aussi, quand tout le reste de la ville s'est écroulé, le signe cramoisi de Rab s'est tenu là, au-dessus de la porte, et tous les autres ont péri. Alors les anges destructeurs sont allés de l'avant et ont détruit tout ce qui se trouvait dans la ville. Ils n'ont rien épargné, pas même un seul bien. Si l'un d'eux emportait un article, il devait périr avec, en sortant de cette dénomination. Ils se sont emparés de tout et ont tout détruit. Maudit soit l'homme qui essaiera de la rebâtir. Son premier-né mourra dès qu'il commencera, et ainsi de suite. Dieu a maudit cela de cette façon, cette grande chose qui avait rejeté la grâce, le message de grâce et de miséricorde. Ils se croyaient en sécurité. Bien des gens pensent aujourd'hui, parce que je suis membre d'une église, je suis en sécurité. N'allez pas croire une telle absurdité. Quand le sang vous servira de signe, maintenant, l'Esprit vous sert de signe, la vie qui était dans le sang. Le même, pensons-y, le même signe dont ils se sont servis en Égypte, le même signe de vie qui était dans l'Égypte, qui était en Égypte. Dieu s'est servi de ce même symbole là-haut. Josué, un type parfait de Jésus, a été fidèle au signe que ses messagers avaient prêché. Josué, quand il a dit cela, qu'il a dit, « Ne touchez pas à cette maison, ni à quoi que ce soit qui se trouve à l'intérieur. Cela est réservé au Seigneur. » Amen. Une païenne, une prostituée, une fille des rues. Mais elle l'entendit et crut, et elle appliqua le signe. Peu importe combien vous êtes plongé dans le péché, peu importe ce que vous avez fait, cela n'a absolument rien à voir. Appliquez le signe, c'est pour vous. Si vous sentez dans votre cœur quelque chose qui tire, alors c'est pour vous. Appliquez le signe. Et le grand Je, le mot Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Et Jésus aussi veut dire un sauveur. Et Josué, quand il s'est enquis auprès de ses messagers sont revenus et ont dit, « J'ai obéi à tes ordres. » Et nous avons trouvé une femme, quand nous avons joué les bondes, tu sais, nous avons trouvé une femme qui a cru. Et nous lui avons dit que tous ceux qui viendraient se placer sous ce signe rouge là-bas, sous ce signe, eh bien, cela signifierait, « J'ai prêché cela. Veux-tu honorer cela, Josué ? C'est pour cela que je vous ai envoyé. Amen. » Et alors, lorsque Dieu a honoré cela, la maison n'a pas croulé du tout. Et alors, lorsque Josué s'est tenu là et a donné le signal de détruire toute la chose et qu'ils sont montés, alors Rahab et toute sa famille sont restés là avec tout leur bien. Amen. Amen. Tout leur bien était en sûreté dans la maison. Ils sont simplement restés là, sans même avoir besoin de regarder par la fenêtre. Ils pouvaient lire l'écriture pendant que la bataille faisait rage. Et voici qu'elle est revenue et a été courtisée par le général de l'armée. Elle a été relevée et s'est retrouvée à Bethléem, où elle a reçu un héritage au milieu d'eux. Et elle a mis au monde un fils célèbre. Et ce fils célèbre a produit un autre fils célèbre. Et ce fils a produit un autre fils célèbre, jusqu'à ce qu'arrive le grand fils célèbre. Faisant tout ce chemin, en passant par Obed, et puis par Isaïe, et ainsi jusqu'en David. C'est vrai. La prostituée Rahab, parce qu'elle crut le messager, elle appliqua le signe, et sa maison fut sauvée. Sinon, elle aurait péri là-bas où elle se trouvait. Écoutez attentivement maintenant. Oh, dites, vous rendez-vous compte? Tous ceux qui se trouvaient dessous furent sauvés en Égypte. Tous ceux qui se trouvaient dessous furent sauvés à Jéricho. Tous ceux qui sont dessous seront sauvés aujourd'hui. Le lien sanglant, l'agneau sanglant est un type de Jésus-Christ. Dans Hébreux 13, 10 et 20, je n'ai pas le temps de le lire. Notez-le, j'avais l'intention de lire cela. On l'appelle l'alliance perpétuelle. Le sang de Jésus-Christ est appelé l'alliance perpétuelle. Oui, monsieur, alliance perpétuelle. Pourquoi n'a-t-elle pas été appelée une alliance éternelle? Parce qu'elle n'allait pas être éternelle. Une fois que nous serons rachetés, elle sera alors terminée. Elle dure à perpétuité, ce qui signifie un certain temps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Il n'y en aura plus jamais une autre. Quand il n'y aura plus de temps, nous n'aurons plus besoin d'alliance. Mais jusqu'à ce que le temps arrive à sa fin, nous avons besoin de l'alliance. Maintenant, souvenez-vous, Hébreux 13, 10 à 20, une alliance perpétuelle. La promesse de Dieu, scellée par le sang, nous affranchit du péché. Amen. Il n'y a aucun péché en lui. Le péché, le moi, la chair. Adorez-le et manifestez sa puissance promise. Le peuple de l'alliance de Dieu, scellé par le sang, scellé par le signe, à l'esprit de Jésus-Christ à l'intérieur de lui, de sorte que celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, manifestant l'alliance. Voyez-vous? Nouveau Testament. Testament veut dire alliance. C'est bien cela, n'est-ce pas, Dr. Vail? Testament veut dire alliance. Le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. L'Ancien Testament était l'ancienne alle sous l'agneau selon laquelle le sang ne pouvait pas revenir sur le croyant. Pour le Nouveau Testament, c'était l'agneau de Dieu et sa vie revient sur nous. Le sang est vie. Voyez-vous, dans le Nouveau Testament, le sang est vie. Voyez-vous, la vie provient du sang de l'agneau. Voilà le sens du Nouveau Testament, de la nouvelle alliance, selon laquelle Dieu, après ces jours-là, j'écrirai mes lois sur les tables de chair de leur cœur. Voyez-vous? Voyez-vous, non sur les tables de pierre et avec du sang d'un agneau. Ce qui vous faisait dire, bon, j'ai apporté le sang ici, maintenant, qu'est-ce que ça dit ensuite? Mais sur les tables de votre cœur, voyez-vous, c'est ici l'alliance de l'esprit que je ferai avec le peuple. Et cela manifeste sa puissance. Dans Jean 14, 12, il est dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Nouveau Testament signifie « Nouvelle Alliance, Nouvelle Vie », ce qui montre que Jésus a satisfait pour nous à chacune des exigences que Dieu avait posées, afin de nous ramener, de faire de nous véritablement des fils et des filles de Dieu, sous le sang, là où il n'y a plus aucune condamnation. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en, non pas ceux qui y croient, ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et ma parole est esprit et vie. Voyez-vous, oh, comme je pourrais tirer un texte de là et rester encore 2 ou 3 heures de plus. Mais nous allons regarder cela rapidement, vous voyez. Plus aucune condamnation, libéré du péché, libéré des soucis de ce monde. Aucune condamne. Comment cela? Pour ceux qui ont été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Là, le sang de l'agneau a été appliqué. Le Dieu du ciel vous a accepté et votre, sa vie est en vous. Et vous êtes fils et fille de Dieu. Votre caractère est le caractère de Dieu. Qu'est-ce à dire? Que vous êtes un instable? Quelqu'un qui accepte n'importe quoi? Non, monsieur. Dieu est un Dieu de jugement. Il est un Dieu de correction. Il faut marcher droit. Rien de moins. Et c'est ce genre de personne-là que vous êtes. Parce que vous avez le caractère de votre Père. Voyez-vous? La vie, regardez bien, la vie est enlevée pour obtenir le sang. Voyez-vous, la vie elle-même est enlevée. Voyez-vous, il fallait prendre la vie pour avoir le sang. Voyez-vous, le sang était appliqué et la vie ne pouvait pas revenir sur le croyant à ce moment-là, car c'était la vie d'un animal, non pas la vie, mais voyez-vous, au lieu d'un être humain, c'était un super, super, super être humain. Voyez-vous, et cela fait de l'être humain maintenant, non pas simplement un être humain, mais il est maintenant un fils, une fille de Dieu. De cette super, 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 super vie qui se trouvait en lui et qui revient sur vous. Et cela vous transforme d'un pécheur dans les choses du monde, d'un membre d'église, un membre de dénomination, en un chrétien né de nouveau, rempli de l'esprit. Et la vie de Dieu est là, qui jaillit de vous comme les étincelles d'une enclume. Tandis que vous marchez, rempli de vertu et d'amour et de douceur, tandis que le Saint-Esprit agit, parle, oh là là, voilà. Et avec quoi? En écoutant le message, en gardant les yeux sur la colonne de feu, et avec l'assurance bénie, je suis passé de la mort à la vie. Donc maintenant, aucune condamnation du tout. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voyez-vous, nous le savons. Mais s'il y a du péché dans notre cœur, alors cela nous condamne. Aussi nous ferions tout aussi bien de ne pas commencer du tout. Voyez-vous, vous devez vous libérer du péché. Et la seule façon de vous libérer du péché, c'est d'entrer en lui. Il n'y a rien d'autre qui puisse couvrir le péché, seulement Christ. Rappelez-vous, le sang de l'Alliance n'est pas reconnu sans le signe. Vous ne le pouvez pas, vous n'y arriverez pas. Vous dites, mais j'ai été sanctifié, je ne fais plus certaines choses. Ça, ce n'est pas le signe. C'est l'Esprit qui est le signe. L'Esprit de Christ sur vous. Croyez-le. Maintenant, regardez. La parole nous garantit la promesse. Tous ces points que j'ai notés ici pourraient servir de texte. Je pourrais simplement continuer ainsi à prêcher toute la journée, semble-t-il, là-dessus. Voyez-vous, la parole nous garantit la promesse, parce qu'elle est la promesse. La parole est la promesse, et la parole est Dieu, et la parole est à nous. Et nous devenons la parole, et la parole devient nous. Et si vous demeurez en moi, et que ma parole demeure en vous, voyez-vous, tout cela devient simplement une grande famille. Voyez-vous, elle nous donne l'assurance. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle est une partie de nous. Voyez-vous? 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 Elle devient une partie de nous. Quel sujet! Très bien. Donc, nous garantit la promesse. Le signe indique que l'acquisition a été faite et acceptée. Or, vous ne pouvez pas obtenir votre jeton de la compagnie de chemin de fer avant d'en avoir payé le prix. Et il n'y a qu'un moyen pour vous d'en payer le prix. C'est de le payer. C'est exact. Quoi donc? Y croire. L'accepter. Une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donnera droit au signe. Une entière obéissance, non pas en partie, ou aussi loin qu'ira votre dénomination, mais en entier. L'entière obéissance à la parole, qui est Christ, vous fait entrer en Christ. Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans, mais que vos pieds pendent au dehors? Qu'en serait-il si vous étiez complètement dedans, avec les mains qui pendent au dehors? Presque complètement dedans, mais avec le cœur qui pend au dehors. Voyez-vous? Voyez-vous? Le cœur est encore dans le monde. Voyez-vous? Mais nous n'agissons pas ainsi. L'obéissance entière, complète, fait que vous et la parole n'êtes qu'un. Vous la croyez toute, chaque mot, et elle est toute en vous, et vous la regardez agir à travers vous. Vous ne vous conduisez pas n'importe comment, voyez-vous? Vous êtes un chrétien. Peu importe ce qu'on peut bien dire, cela ne vous affecte pas du tout. Vous êtes en Christ, vous êtes en parfaite sécurité. Quand la mort frappe à la porte, elle n'a aucun pouvoir, voyez-vous? Aucun. Pourquoi? Elle vous fait simplement passer d'ici à là. L'âge n'a aucune importance. Vous êtes affranchi de l'âge. Vous êtes dans l'éternité parce que vous êtes en lui. Il est éternel. Que vous soyez jeune, vieux, d'âge moyen, peu importe, cela n'a aucune importance. Que vous soyez beau, laid, court, gros, et quoi encore, cela n'a aucune importance. Aucune. Vous ne passez pas votre temps à cela et à toutes ces autres choses. Vous avez dépassé cela. Vous êtes mort. Votre vie est cachée en Dieu à travers Christ. Vous êtes scellé à l'intérieur par le Saint-Esprit. Vous marchez en Christ. Le seul objet que vous voyez est Christ. C'est tout. C'est tout. Et vous marchez. Oh là là. Pas étonnant que nous ayons l'habitude de chanter ce petit cantique. Remplis mon chemin d'amour chaque jour, comme je chemine avec la céleste colombe. Laisse-moi toujours marcher, chantant et souriant. Remplis que je sois un frère, que je sois un exemple vivant de ce que Christ a dit qu'un homme devrait être. Que je sois un frère pour un frère pour une sœur. Que je sois un ministre de l'Évangile pour les ministres de l'Évangile. Que je sois l'exemple des exemples. Que je montre à ce monde que cette parole est Christ. La seule façon pour moi de le faire, c'est d'entrer en lui. Parce que je ne peux pas le faire moi-même, vous non plus. Mais laissez la parole et vous devenir un. Alors c'est elle qui vit à travers vous. Vous êtes alors une épître ambulante de Jésus-Christ. Quand celui-ci exerce pleine autorité sur vous, pour faire que chaque parole, s'il vient par ici disant « Je veux faire ceci » et que vous disiez « Non, non, je ne crois pas cela », voyez-vous, vous n'êtes pas encore dans la parole, voyez-vous. L'entière, maintenant regardez bien, l'entière obéissance à toute la parole de Dieu nous donne droit au signe. Et puis, lorsque nous payons, prions, nous devons pouvoir présenter le signe avec notre prière. Si vous dites, « Je prie, Seigneur, mais en fait, je n'ai pas », eh bien, vous feriez aussi bien d'arrêter là. Voyez-vous, allez premièrement chercher le signe, voyez-vous, parce que ce signe est ce qu'il reconnaîtra. Voyez-vous, oui, monsieur. Lorsque nous prions, nous devons donc présenter le signe. « Seigneur, je t'ai pleinement obéi. Je me suis repenti de mes péchés. Je pense que tu m'as pardonné. J'ai été baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est sur moi. Maintenant, j'ai besoin d'une certaine chose pour ta gloire. Seigneur, je la demande. Elle m'appartient à présent. Alors, quelque chose s'ancre ici. C'est à vous. C'est classé. C'est terminé à ce moment-là. C'est terminé. C'est réglé. Je demande ceci. Je le demande. Je dois l'avoir. Voyez-vous? Voyez-vous? Je veux cela pour ta gloire. Voyez-vous? Alors il vous le donne simplement. Alors vous savez que c'est à vous. C'est la même chose pour nos enfants et ainsi de suite. Nous appliquons le sang. Nous le croyons. C'est tout. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait alors? Lorsque vous pouvez présenter le signe avec votre prière, cela montre que vous êtes parvenu à une entière obéissance à toute la parole de Dieu. Quand vous possédez le signe, cela montre que vous avez obéi à chaque parole. Alors vous et la parole êtes un. Et ainsi, vous ne faites que demander la chose que vous êtes. Voyez-vous? Voyez-vous? À ce moment-là, bien sûr, vous êtes convaincu. Si je dis à ceci, « Toi, la main, obéis-moi. Va chercher ce mouchoir. » Elle le fait. Voyez-vous? La main m'a obéi. Pourquoi? Elle est une partie de moi. Voyez-vous? Ainsi, lorsque vous et la parole devenez un, chaque promesse, gloire à Dieu, chaque promesse vous appartient, elle vous obéit. C'est alors qu'il faut vous faire bien attention à ce que vous allez faire. Vous n'iriez pas mettre votre main dans le feu juste pour dire « Regardez-moi faire cela ». Oh non, non, voyez-vous. Mais si dans ce feu, il y a quelque chose que je dois aller chercher, elle m'obéira. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est exact. Voyez-vous, vous voulez faire bien attention à ce que vous faites. Voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit est distribué avec retenue, et ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire. C'est que vous ne voulez pas, un vrai serviteur de Dieu ne s'en sert pas pour épater, vous voyez. Ça, c'est se donner en spectacle. Lorsque nous prions, nous présentons le signe. Cela montre que nous avons pleinement obéi. Paul nous dit que le sang parle. Or, tout le monde sait que le sang, en soi, ne peut pas parler. Ce sont des composants chimiques. Est-ce juste? Combien savent cela? Mais combien savent que le sang parle? Si vous désirez le noter, c'est dans Genèse 4, 10. Dieu a dit, « Qu'en est-il de ton frère? Son sang crie de la terre contre toi. » Amen. Est-ce juste? Son sang parle. Alléluia! Dieu a dit, qu'en est-il de lui? Il a dit, suis-je le gardien de mon frère? Il a dit, son sang est en train de crier. Son sang est en train de crier. C'est un signe. C'est un signe qu'il avait été tué. Son sang criait contre lui. Si vous avez trouvé cela dans Genèse 4, 10, allez maintenant à Hébreux 12, 24 et commencez à lire. Dans Hébreux 10, 12, 4, il est dit, « Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. » Vous voyez, Abel était un homme juste. Il est mort innocent parce qu'il était sur le chemin. Il était sur le chemin, fidèle à la vraie révélation qu'il possédait. Il a parlé, il a crié. Le juste sang d'Abel a crié contre Caïn. Mais le sang de Jésus-Christ n'a pas seulement crié, il a racheté. Amen. Il parle mieux. Il fait de vous des fils et des filles. Il vous met à l'abri de la colère de Dieu. Voyez-vous, le sang d'Abel ne pouvait pas abriter Caïn. Voyez-vous, mais le sang de Jésus le peut. Amen. Ainsi, si tu es un Caïn, tu peux venir aujourd'hui. Si tu as persécuté la parole, disant, les jours des miracles sont passés. Cette histoire-là, ce n'est que sottise, et ainsi de suite. Il est en train de crier, vous voyez. Le sang de Jésus-Christ crie, mais il contient le pardon, si seulement vous voulez l'accepter. Je souhaiterais que nous puissions nous attarder là-dessus un petit moment, vous voyez. Le sang parle mieux. Croyez à votre sécurité. Ensuite, appliquez. Voyez-vous, croyez. Voici à quoi vous devriez croire. Voyez-vous, vous voulez votre propre sécurité. Vous croyez à votre propre sécurité. Et ensuite, vous appliquez le signe à toute la famille. Voyez-vous? Vous dites, comment puis-je faire cela? Réclamez-le. Si cela a fonctionné pour vous, alors vous et la parole, devenez un. Amen. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous, il agira pour l'un comme pour l'autre. Vous et la parole êtes un. Alors, appliquez-le à vos enfants. Appliquez-le à vos bien-aimés. C'est ce que Rahab a fait. Elle appliqua le signe à son père. Elle l'appliqua à sa mère. Elle l'appliqua à ses frères et sœurs. Elle les fait tous entrer. Appliquez-le. Dites, Seigneur, je vais chercher mon fils. Je vais chercher ma fille. Je la réclame. Satan, laisse-la aller. Je viens la chercher. J'applique mon signe, le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit qui habite en moi, empare-toi de ma fille là-bas. Je vais vers elle maintenant, avec ton onction sur moi. Il le fera. Amen. C'est ce qu'ils ont fait en Égypte. C'est ce qu'ils ont fait à Jéricho. Si vous voulez lire un autre passage, allez à Actes 16, 31. Paul dit au centenier, « Crois, je suis le messager de l'heure. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta maison serez sauvés. » Est-ce juste? Croyez pour votre maison. Amenez-les tous dessus. Maintenant, tu as vu le Dieu du ciel accomplir un miracle. Le jugement va suivre. Le crois-tu? Oui. Que puis-je faire? Il dit, lève-toi et sois baptisé. Paul l'amena à l'extérieur et le baptisa. Il lui dit, maintenant, crois au Seigneur Jésus-Christ et toi et ta maison serez sauvés. Croyez quoi? Croyez le Seigneur Jésus-Christ pour votre maison. Appliquez le signe à votre maison. Alors, que faites-vous quand vous l'appliquez à votre maison? Vous vous débarrassez de toutes les ordures. Vous prenez toutes les jupes courtes, les shorts, les cartes, les cigarettes, les appareils de télévision et quoi encore. Et vous jetez tout cela dehors. Quand vous décidez d'appliquer le signe, il ne peut pas supporter cela. Oui, monsieur, sortez tout ça. Toutes les soirées dansantes et les fêtes et le rock'n'roll, et ces vieux journaux vulgaires, et toutes ces choses qui sont de ce monde. Mettez cela à la porte. Dites, on fait le grand ménage ici. C'est ce qu'a fait Jacob. Il a dit à sa femme et à tous ceux qui étaient avec lui, lavez vos vêtements et tout. Ôtez ces dieux du milieu de vous. Amen. Savez-vous ce que Josué a dit avant de traverser? Il a dit, lavez vos vêtements, n'allez pas vers vos femmes, et ainsi de suite. Et préparez-vous, car dans 3 jours, nous passerons le Jourdain. Amen. Il se préparait, il appliquait le signe. Amen. C'est ça. Préparez-vous, appliquez-le, croyez-y, nettoyez tout. Laissez vos enfants, laissez votre famille, laissez vos bien-aimés le voir en vous. C'est ça, cela produira son effet. Oui, monsieur. Ensuite, appliquez le signe dans la prière, avec sérieux, avec foi. Appliquez-le avec tant d'amour, et ainsi de suite, que vous savez que cela arrivera. Voilà tout. Appliquez-le avec confiance, croyant qu'il vous aidera. Quand vous parlez à cet enfant, quand vous parlez à votre mari, que vous parlez à votre femme, que vous parlez à cet être cher, croyez qu'il vous viendra en aide. Tenez-vous là en disant, « Seigneur, je les ai réclamés. Ils sont à moi. Je les veux pour toi, Seigneur. » Appliquez-le. Créez cette atmosphère autour de vous qui aura tant fait de les gagner. Voyez-vous? Oh, vous êtes, si vous avez le signe, vous créez un esprit autour de vous, une puissance qui fait que, lorsque vous marchez, les gens savent que vous êtes chrétien. Ils aiment vous entendre leur dire quelque chose. Ils croient votre parole. Ils s'accrochent à ce que vous dites. Voyez-vous? C'est ça. Appliquez le signe. Ensuite, marchez avec lui. Réclamez votre maisonnée. Vous devez le faire maintenant. C'est le temps du soir. Il y a longtemps que vous écoutez. C'est maintenant le temps du soir. C'est maintenant le temps de mettre en application. Un de ces jours, la colère frappera. Et peut-être sera-t-il trop tard à ce moment-là. Voyez-vous? Appliquez le signe avec confiance. Si vous vouliez lire cela, lire quelque chose, l'écriture que j'ai notée là-dessus est, lisez Éphésiens 2:12, si vous désirez noter cela. Remarquez, dans Éphésiens 2:12, quand vous le lirez, il est dit que nous ne servons pas des œuvres mortes, mais que nous servons un Dieu vivant par des œuvres vivantes. Amen. Oh là là, par des œuvres vivantes, des signes vivants. Croyez-vous aux signes vivants? Notez aussi Hébreux 9, 11 à 14, si vous désirez le noter. Des signes vivants, des œuvres vivantes. Appliquez cela, non pas des credos morts. Je vais emmener mon garçon à l'église et voir à ce qu'il adhère à l'église. Un brave garçon chrétien d'ici, un bon ami, un vieux copain, un brave garçon. Il est venu ici et a été baptisé. Sa mère a dit, « J'aurais préféré que tu ailles dans une plus grande église pour te faire baptiser. » Voyez-vous? C'est qu'il ne voulait pas de ces vieux credos morts et tout. Voyez-vous? Nous ne servons pas des credos morts et des dieux morts. Nous servons un Dieu vivant dont le sang a été répandu là-bas et le signe a été appliqué sur nous, de sorte que nous aussi, nous vivons. Amen. Oui, monsieur. Ne servez pas des credos morts. Ils vont même jusqu'à nier les choses comme le signe. Ils disent, les jours des miracles sont passés. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Pourquoi adhérer à quelque chose comme cela? Voyez-vous, ne faites pas cela. Appliquez le signe et servez le Dieu vivant pour avoir des œuvres vivantes, des signes vivants, des signes qui guérissent les malades, qui ressuscitent les morts, qui prédisent des choses, qui parlent en langue, qui interprètent chaque fois d'une façon parfaite, qui prophétisent, disant que telle et telle chose se produira, qui font paraître des signes en haut dans le ciel et sur la terre des signes et des prodiges. Amen. Déclarant exactement ce que la Bible a dit qui arriverait. Servez le Dieu vivant. Appliquez le signe. N'allez pas dans ces églises vous joindre à ces vieilles œuvres mortes et aux choses semblables, parce qu'ils ne croient même pas à cela, au signe. Mais nous qui croyons, amen, nous savons que, ils disent, un signe, ça n'existe pas. Ça, oh ça, c'est une absurdité. Ce qu'ils disent là-haut, c'est fou. Tout ça, ça n'existe pas. Vous, les femmes, voyons, oh vous, voyons, vous n'allez pas. Qu'est-ce que la manière de s'habiller a à voir? Mais cela a quelque chose à voir. La Bible l'a dit. Qu'est-ce que vos cheveux ont à... La Bible l'a dit. C'est ça la différence, voyez-vous? Ne prends pas, ne touche pas, ne goûte pas. Il est Dieu, voyez-vous? Tout cela est effectivement là pour quelque chose. Or, eux, ils trouvent que c'est fou. Mais pour nous qui croyons et qui connaissons la vérité, nous savons qu'il s'agit de sa présence vivante, car elle fait les mêmes choses qu'il a faites lorsqu'il était ici sur terre. Amen. Oh, disent-ils, ils ne font que s'imaginer voir cette colonne de feu. Oh non, nous ne nous imaginons rien du tout. Ils pensaient que Paul se l'était imaginé aussi. L'Égypte pensait qu'Israël se l'était imaginé, mais elle les a conduits à la terre promise. Oui, monsieur. Nous ne... Hébreux 13:8, vous savez, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Si vous le prenez en note, voyez-vous. Il est le même. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Quand j'inscris ces écritures que je note ici, alors je sais où se trouvent ces écritures. Et c'est ainsi que je peux les retrouver. Voyez-vous? Savons qu'il s'agit de sa présence vivante, car il fait la même chose dans cet esprit. Or, s'il prenait la direction de quelque credo ou dénomination, nous pourrions tout de suite savoir qu'il ne s'agissait pas là de Christ. N'est-ce pas vrai? Si je vous conduisais dans quelque credo ou autre chose du genre, je serais simplement envoyé par une dénomination. Seulement, je ne vous apporte pas des credos et je ne vous enseigne pas des dénominations. Je vous enseigne la parole de Dieu, qui est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, manifestée, pas seulement pour moi, mais pour quiconque le veut. Voyez-vous? Afin que vous êtes mon frère. Je ne suis pas quelqu'un de grand, et vous, quelqu'un de petit. Nous sommes tous petits en Dieu, voyez-vous? Nous sommes ses petits-enfants. Nous ne connaissons rien de ce que nous devrions vraiment connaître. C'est lui qui nous fait connaître les choses selon sa volonté. Et nous sommes reconnaissants des bénédictions qu'il a bien voulu nous faire connaître. Et je ne veux pas être le seul à y prendre part. Je veux partager cela avec vous. Voyez-vous, je veux que vous ayez part à cela, et je veux que vous receviez ce signe. Et si vous ne l'avez pas fait, beaucoup d'entre vous, la plupart, l'ont déjà fait. Mais si certains d'entre vous ne l'ont pas fait, voyez-vous, je parle aussi pour ceux qui écoutent la bande, vous comprenez. Et beaucoup, je ne parle pas de ceux qui sont ici dans l'église, je suppose que nous sommes tous sortis. Mais il y en aura peut-être des milliers de milliers qui écouteront la bande, voyez-vous, et ça... C'est un ministère. Il y aura quelqu'un qui se glissera dans Jéricho, vous savez, avec une bande. Et nous voulons donc attraper la semence prédestinée quand la bande ira là-bas. Voyez-vous, parce que la colère va bientôt venir. Savons qu'il s'agit de la présence du Dieu vivant. Cela prouve que Dieu l'a ressuscité, selon sa parole promise. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Jéricho, l'Égypte. Ils ne me verront plus, mais vous me verrez, car je, le pronom personnel, c'est toujours ainsi qu'il y fait référence, voyez-vous, je serai avec vous. Je suis le signe. Ma résurrection est le signe. Les œuvres que je fais vous identifieront, m'identifieront en vous. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra, quand le message du soir sera proclamé. Car vers le soir, la lumière paraîtra. Juste vers le temps du soir, la lumière se fera. Oh, gloire à Dieu! À cause de cela, je me sentirai capable de me précipiter sur une troupe en armes et de franchir une muraille. Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est vrai, le prophète l'a dit. Je serai avec vous. Je serai dans l'âge de Luther. Je serai dans l'âge de Wesley. Je serai dans l'âge pentecôtiste. Mais juste au temps du soir, la lumière paraîtra. Les gens des dénominations s'éteindront. Et ensuite, le signe sera appliqué. Et tous ceux qui avaient un cœur honnête, tout au cours des âges, sans vous, ils ne parviendront pas à la perfection. Mais en vous, de même que c'est la tête qui doit agir pour aller chercher le pied. C'est la tête qui doit agir pour aller chercher la main. C'est la tête qui doit agir pour aller chercher le cœur. C'est la tête qui doit agir pour aller chercher la bouche. Voyez-vous, c'est la tête qui doit agir. Et nous sommes maintenant au temps où le signe était appliqué, sur le linteau de la porte, voyez-vous, et sur les poteaux. Et alors, quand je verrai le sang qui sera un signe, je passerai par-dessus vous. Je vais faire vite maintenant, aussi vite que possible, juste encore 5 minutes de plus, ou 10, et nous aurons terminé. Cela prouve que Dieu l'a ressuscité des morts. Le croyez-vous? Il est vivant au milieu de nous aujourd'hui. Et ce « je » est Christ. Et ce « je » est avec nous jusqu'à la fin du... C'est-à-dire jusqu'à la consommation, ce qui veut dire la fin du monde. J'y serai jusqu'à la fin du monde, selon sa parole promise. Il l'a promis. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Ce n'est pas une absurdité pour nous. C'est le signe. C'est le signe. Nous acceptons ce sacrifice sacré de son sang. Nous acceptons son sang qu'il a sacrifié. Ensuite, qui nous donne la vie, le signe, un sceau de sa promesse. Éphésiens 4:30 dit, « N'attristez pas le sang, non, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été placé sous l'alliance mise à l'abri. Vous êtes sous l'alliance, vous êtes un signe. Le Saint-Esprit sera le sceau. Quand quelque chose est scellé à l'intérieur d'un sceau, vous faites mieux de ne pas briser ce sceau. D'ailleurs, vous ne pouvez pas le briser, vous, pas le sceau de Dieu, non, voyez-vous. Car vous êtes, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé jusqu'au jour de votre rédemption, quand le corps sera ressuscité. C'est une semence, un signe que la semence a été fécondée par la vie éternelle. Zoé, ma propre vie, et je la ressusciterai au dernier jour. Et dans votre marche, vous avez l'assurance que la vie de Christ est en vous et que vous êtes en lui. D'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps et scellés à l'intérieur par le Saint-Esprit, parmi les croyants, jusqu'au jour où Jésus nous ressuscitera. Oh là là, appliquez le signe. Voilà ce que cela signifie pour nous. Nous nous attendons à ce que ce sacrifice nous donne la vie, et c'est ce qu'il fait. Et il nous donne le signe, et nous appliquons le signe, qui est le sceau, jusqu'au d'être participant de ceci, que c'est glorieux. D'être participant, d'être baptisé d'un seul esprit pour former ce corps mystique, ce corps mythique. Ai-je dit ce mot correctement? Mythique, mystique, le corps mystique, le corps mystique de Jésus-Christ. Voyez-vous, le Saint-Esprit a dit, tu ne le dis pas comme il faut. Un simple est comme moi. Mais il a dit, tu ne le dis pas comme il faut. Je l'ai appelé mythique, alors qu'en fait, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Voyez-vous, le corps mystique de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de faire des études. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il est celui qu'il nous faut. Voyez-vous, il est celui qu'il nous faut. Oui, quelqu'un quelque part aurait pu s'achoper à cela. Vous voyez, un éducateur. Maintenant, j'espère qu'il l'aura saisi correctement. Le corps mystique, il y a une raison à cela, sinon il ne l'aurait pas dit. Voyez-vous, il est ici même, maintenant. Il est ici même, à la chair. Il est là-bas, c'est lui. Voyez-vous? Et en lui, point de mort. En lui, point de deuil. En lui, point de lassitude. En lui, point de péché. En lui, point de maladie. En lui, point de mort. Nous sommes en lui. Si Satan essaye de vous passer quelque chose, comme par exemple la maladie, prenez simplement votre signe et appliquez-le. Oh là là, prenez votre signe et appliquez-le. Vous êtes une acquisition de Jésus-Christ. Le signe est là pour témoigner que votre passage est payé. Il dit, si tu meurs, tu es perdu. Dites, tu te trompes. J'ai l'acquisition. Je suis une acquisition. J'ai le signe. Qu'est-ce que le signe? Il sait ce que c'est. Il n'est pas si bête. Il sait ce que c'est. Oh, vous pourriez parler à certains de ces prédicateurs et eux argumenteraient avec vous. Pas Satan. Il s'en garde bien, voyez-vous. Oh oui, il l'a défié deux ou trois fois, vous savez, et c'est là qu'il a commis son erreur. Lors de la tentation, Satan sait de quoi vous parlez. Montrez simplement ce signe et il filera. Oui, parce que, qu'est-ce que c'est? C'est un produit scellé. Il ne peut pas briser ce sceau et transmettre quelque chose qui n'est pas juste à l'intérieur. Dites, laisse-moi tranquille, je suis scellé. Oh là là, un produit scellé. Oui, monsieur, vous avez été acquis. Tenez le signe au-dessus de votre foi immuable en sa promesse et regardez-le déguerpir. La prière fervente du juste a une grande efficace. Voyez-vous? Voyez-vous? Prenez le signe, il est là pour ça. Satan est là pour vous tenter. Il était en Égypte pour tenter. Vous savez, le jour où Rab a mis cette prostituée, le jour où la prostituée a suspendu ce fil, j'imagine qu'il a dû y avoir des soldats qui ont ri et se sont moqués en disant, « Cette pauvre vieille folle là-haut, elle a perdu la tête. Regardez ce qu'elle... » A-t-on jamais vu cela? Le Dr Jones, ici, nous a dit que tout cela est sans intérêt. Au contraire, parce qu'un messager venant de la part de Dieu avait apporté le message, elle avait dit. Pouvez-vous vous imaginer les Égyptiens disant, « Regardez, mais regardez-moi donc cette bande de fous, ces Holy Rollers qui mettent du sang, haha. Et maintenant, quand ils vont essayer de faire partir cela au lessivage, quel gâchis, oh là là, ces belles grosses maisons, toutes couvertes de sang, quelle puanteur, comme ça va être horrible dans quelques jours, tout cela n'a aucun sens. » Savez-vous pourquoi? Parce que le Saint-Père, un tel, l'a dit. Mais au contraire, oui, cela avait un sens. Cela a un sens pour nous qui y croyons. Voyez-vous? Rappelez-vous simplement ceci, votre foi immuable que vous avez en cette parole. Or, vous n'êtes plus Ève. Voyez-vous? Vous n'êtes pas un de ces douteurs qui se permettent des compromis avec Satan. Vous retenez chaque parole de Dieu. Voyez-vous, Ève a dit, « Mais le Seigneur l'a dit !» Satan a dit, « Mais tu sais, certainement que le Seigneur ne fera pas une chose pareille à une gentille personne comme toi. Oh, tu es si charmante, il ne... Oh que si, il le fera. Il a dit qu'il le ferait. Eh bien, mon père était prédicateur. J'ai été moi-même prédicateur. Je n'y peux rien. Sans le signe, vous êtes perdus. La colère est sur vous, voilà tout. Sans le signe. » Voyez-vous, il a dit qu'il le ferait, et il le fera. Voilà, voilà qui règle la question. Il dit qu'il le fera. Oh, je crois que les jours des miracles. Oui, mais lui, il a dit le contraire. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voyez-vous, et c'est exactement ce qu'il se révèle être. Or, nous, nous le savons. Eux, ils n'y croient pas. Mais nous, nous y croyons. Nous savons que c'est la vérité. Voyez-vous, maintenant, en étant à l'intérieur, nous devenons une partie de la parole. Et alors, prenez le signe, l'esprit, et placez-le sur la promesse. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, préparez-vous pour le service de guérison de ce soir. Voyez-vous? Prenez le signe et suspendez-le au-dessus de la parole, sur votre foi immuable en cette parole. Il sortira. C'est précisément ce qui le chasse. Parce que, en lui, il n'y a rien de cela. Comme je souhaiterais pouvoir témoigner un peu en ce moment des choses que j'ai vues se produire ces dernières semaines. Voyez-vous, oh, que de témoignages je pourrais donner. Vous savez, Luc a dit, si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans des livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour empiler tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous? Il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès, pas moi, lui. Moi. Alléluia. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth. C'est vrai, dans cette méchante ville-là et dans cette méchante ville-ci. Amen. Gloire. Parce que il ne pouvait faire aucun miracle dans ce lieu, mais il en a fait ici. Ici, il a fini par percer. Ici, il y est arrivé. Il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens de l'extérieur, mais il y est arrivé de toute façon. Ainsi, il a eu plus de succès ici qu'il n'en a eu à Capernaum ou à Nazareth. Il a fait plus de miracles ici même, dans ce tabernacle, qu'il n'en a fait dans tout son ministère sur la terre. C'est vrai. C'est ce qu'il a fait. Alors, qu'en est-il du reste du monde? Oh là là, maintenant, c'est ce que lui a fait. Or, ne l'oubliez pas, il l'a fait. Maintenant, je n'ai jamais dit que c'était moi qui l'avais fait, voyez-vous, parce que je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait que l'aimer et me soumettre à lui, et dire ce qu'il a dit. Et le Saint-Esprit est allé trouver les autres personnes. Et alors, ils ont cru ce qu'il a dit. Et ensuite, il a fait le travail. Voilà tout. S'il peut nous amener tous à y croire, qu'est-ce qu'il pourrait faire tout de suite? S'il pouvait nous amener tous à y croire à l'instant même, il n'y aurait plus un seul malade dans toute la ville. C'est vrai, s'il pouvait amener tout le monde à y croire, ce serait terminé, voyez-vous? Tenez votre signe au-dessus de votre foi immuable en sa parole promise, et Satan s'en ira. Il faut vraiment que je termine maintenant. Jadis, Dieu a donné un autre signe au monde, un arc-en-ciel. Vous en souvenez-vous? Il est toujours, toujours resté fidèle à ce signe-là, parce qu'il l'avait donné comme signe. Pendant tous ces milliers d'années, jamais il n'a manqué de déployer ce signe. Est-ce juste? Pourquoi? Parce qu'il l'honore, il l'a donné. Il a donné au monde un signe qu'il ne détruirait plus la terre par un déluge. Et depuis ce jour-là, il l'a toujours, toujours déployé. Il y a dans l'air certains éléments qui forment l'arc-en-ciel. C'est quand il pleut et que se montre le soleil que paraît l'arc-en-ciel. Le soleil assèche la pluie. Il a donc placé là l'arc-en-ciel pour prouver que jamais plus il ne tomberait sur la terre assez d'eau pour la détruire à nouveau. C'est là son alliance. C'est un signe. Il a dit, je vous le donnerai comme signe. Il a honoré son signe. Il a honoré son signe au jour de Noé. Aujourd'hui encore, il le fait pareil. Il a honoré son signe en Égypte. Il l'a honoré à Jéricho. Il l'honore aujourd'hui. Il honore toujours son signe lorsqu'il est déployé. Pendant tous ces milliers d'années, il a toujours pris plaisir à déployer ce signe. Il ne l'oublie jamais. Il n'oublie pas son signe. Peu importe combien le monde change, l'arc-en-ciel, lui, est toujours là. Voyez-vous, il honore le signe. C'est la même chose maintenant. Il honore son signe. Peu importe combien l'Église peut changer, ce qu'elle peut bien faire, Dieu honore toujours son signe, et lui seul. Cela nous montre qu'il ne manque jamais d'honorer ce qu'il fait et ce qu'il dit. Nous acceptons, nous respectons cela. Je respecte cela. Il s'attend à ce que nous aussi, nous déployions son signe, le tenant au-dessus de notre foi, face à Satan et à toutes ses sectes et dénominations incrédules. Nous croyons que sa promesse est vraie et qu'il fera ce qu'il a promis. Voilà ce qu'est l'Église. Pas étonnant qu'il ne parvienne même pas à la première base, comme on dit, passez-moi l'expression. Pas étonnant qu'il n'arrive à rien. Tout ce qu'ils font, c'est retourner à une dénomination, formant une bande de gens tout endimanchés, éduqués, intellectuels, instruits. Ils n'arrivent jamais à rien, parce que tout ce qu'ils déploient, c'est « moi, je suis méthodiste, moi, je suis presbytérien », c'est tout ce qu'ils sont. Mais les croyants prennent le signe. Et ce que Jésus a commencé à faire en Galilée, il continue à le faire maintenant en manifestant le signe, le Saint-Esprit revenu sur l'Église. Car ce n'étaient pas les actes des apôtres, c'était les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et c'était un signe. Ils ont dit n'avoir pu s'empêcher de prêter attention à Pierre et Jacques quand ils, Pierre et Jean, quand ils ont passé par la porte du temple appelée la Belle, voyant qu'ils étaient des hommes du peuple sans instruction. Peut-être qu'ils parlaient ainsi. Hit, hain, tot, ter, fetch, carry. Oh, je vais vous parler de... Voyez-vous, peut-être qu'ils employaient toutes sortes de grammaires qu'on ne pouvait pas comprendre. Peut-être qu'ils n'auraient pas pu démêler toutes les mathématiques de l'Écriture. Mais ils n'ont pu s'empêcher de reconnaître qu'ils avaient été avec Jésus. Ils avaient mis le signe en évidence. Parce que le même esprit qui était sur lui avant sa crucifixion était sur eux après la résurrection. Amen. Alors, cela fait de lui, Hébreux 13:8, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voilà comment nous savons qu'il vit. Comment donc? Comment savons-nous que nous vivons? Parce qu'il vit. Et la raison pour laquelle nous savons que nous vivons, c'est parce que nous sommes semblables à lui et que nous sommes en lui. Et il a dit, « Parce que je vis, vous vivez aussi. Je suis celui, dans l'Apocalypse, qui était mort, et je suis vivant au siècle des siècles. Et si nous mourons à nous-mêmes et devenons vivants en lui, alors nous sommes vivants au siècle des siècles. » Et puis, sa vie en nous, c'est comme pour la vie de n'importe quoi d'autre. Elle manifeste ce qu'il était. Et cela fait de lui le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, comment cela peut-il être possible quand il nie cela? Ne voyez-vous pas les œuvres mortes? Servez le Dieu vivant par l'alliance éternelle, je veux dire l'alliance perpétuelle de la vie qui était dans le sang de Jésus-Christ. Maintenant, cherchant à continuer, pour finir, nous allons simplement nous arrêter, voyez-vous? Mettons en évidence le signe de sa grâce, de son amour. Maintenant, si ce signe n'est pas appliqué, maintenant, c'est un signe. Qu'est-ce qu'un signe? Le signe est l'indication qu'une dette a été payée, qu'un prix exigé a été payé. Le prix de notre salut était la mort. Voyez-vous, et personne d'autre que Christ ne pouvait le payer. Et non pas l'esprit d'une dénomination, non pas l'esprit d'un pape, non pas l'esprit d'un homme quelconque ou d'un saint, mais l'esprit de Jésus-Christ sur l'Église est un signe que la dette a été payée et qu'il a satisfait à chacune des exigences que Dieu avait posées et que nous et lui sommes un. Ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et vous en moi. Appliquez le signe. Appliquez le signe de sa résurrection. Ayant été ressuscité pour notre justification, il nous a aussi ressuscité avec lui. Et maintenant, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, unis dans la communion du signe. Tandis que les enfants d'Israël étaient assis là, et qu'au même moment dans la rue, on poussait des hurlements, ils n'avaient aucun souci à se faire. Seulement, il fallait être bien sûr que le sang, le signe, était bien visible. Et c'est la seule chose dont nous ayons à nous soucier en ce moment. Il y a de l'orage dans l'air, mes amis. Ce ne sera plus très long. Le malheur est en train de frapper, vous le savez. Soyez tout à fait sûrs que le signe est bien visible. Et le signe est le Saint-Esprit. Car d'un seul esprit, nous sommes tous baptisés pour former un seul corps et rendus participants de sa gloire. En route maintenant vers notre demeure, vers la terre promise. L'aimez-vous? Croyez-vous le signe? Combien aimeraient dire, « Oh, frère Branham, priez pour moi que je puisse venir sous ce signe. » Inclinons la tête. Seigneur Jésus, ô toi, le très bienveillant, alors que le monde était dans le péché et incapable de s'en sortir, Dieu, dans sa miséricorde, a montré d'avance par un type qu'un signe allait venir, qui pourrait ôter le péché, non pas seulement le couvrir, mais l'ôter. Et Jésus est venu au moment voulu, et il a répandu son sang, sa propre vie, faisant pour nous une expiation pour nos péchés. Et puis, il l'a fait revenir sous la forme du Saint-Esprit, lequel est maintenant un signe qui doit rester avec l'Église jusqu'à ce qu'il vienne. Car l'apôtre Pierre a dit, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Seigneur, par ta grâce et avec ton secours, je réclame chaque personne qui écoute ce message. Je les réclame pour Dieu. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui sont ici ce matin, aussi bien que pour ceux qui écouteront la bande. Et si, quelque part, Seigneur, il y a une semence prédestinée à entendre la parole de ce dernier jour, puisse-t-il venir maintenant, avec douceur et humilité, et déposer leur trophée au pied de la croix, ou se déposer eux-mêmes en tant que trophée de la grâce de Dieu qui les a appelés. Et puissent-ils être remplis du Saint-Esprit et mettre en évidence le signe de la vie de Jésus-Christ dans sa résurrection, aussi longtemps qu'ils demeureront ici sur la terre. Accorde-le, Seigneur. Ces paroles, Seigneur, il se peut que je ne les ai pas dites comme il faut. Si c'est le cas, je prie que le Saint-Esprit veuille bien prendre ces paroles et les donner de la façon qu'elles devraient l'être, afin que les gens puissent comprendre et savoir, sans malice. Fais-leur savoir que l'amour est correctif et qu'ils sachent que cela a été dit à cause de l'heure dans laquelle nous vivons et de la venue imminente du Seigneur. Voyons les lumières rouges qui clignotent partout dans le monde, indiquant que le temps est proche. Je prie que les gens reçoivent le Saint-Esprit aujourd'hui même, et je te les remets au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit pour nous un signe, tant que nous vivrons, c'est ce que tu as promis. Il est donc facile de demander cela, puisque c'est ce que tu as promis, et je sais qu'il en sera ainsi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, gardons la tête inclinée un instant. Avec foi et croyant, j'ai prié pour vous du mieux que j'ai pu. J'ai prié en toute sincérité, du mieux que je pouvais prier pour cela. Regardez, je me rends bien compte que, savez-vous, ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. C'est grâce à votre soutien, à vous de cette Église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est grâce à votre amour et à vos amen et à votre communion fraternelle et à vos bonnes paroles. Partout où vous allez, au milieu de ce monde, dans les différents états de cette nation, ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. C'est vous. Nous sommes associés dans ceci avec Christ. Nous sommes frères et sœurs et il est notre roi. Et je vous aime. Là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Je parcours tout le pays en voiture, rien que pour vous parler une ou deux fois. Je suis impatient de vous voir le dimanche matin. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Il arrive que je sois obligé de parler d'une manière très dure, mais ce n'est que pour corriger. Vous voyez, c'est parce que je vous aime, voyez-vous, et je ne veux pas que vous manquiez le but. Vous ne devez pas faire cela. Maintenant, en toute douceur, humblement, de tout votre cœur, et du plus profond de vous-même, acceptez-le simplement. Dites, Seigneur Jésus, à l'instant même, prends simplement tout ce qui est en moi et qui n'est pas conforme à toi. Laisse-moi me débarrasser de tout mon orgueil et de tout ce qui est en moi, tout ce qui est sans valeur, toute mon incrédulité. Je renonce à cela, Seigneur. Je mets tout cela dehors et laisse le doux Saint-Esprit de Dieu, tel une colombe, descendre en moi. Je désire vivre éternellement, Seigneur, et je demande ton secours en ce moment. Accorde-le maintenant. Tandis que vous priez, nous allons fredonner ce cantique ou le chanter ensemble à voix basse. Je l'aime. Et rappelez-vous, cela vient par l'amour, car il est amour. Tandis que je tiens mes mains posées sur ces mouchoirs, parce que les gens vont peut-être venir les chercher avant ce soir. L'amour, aimez-le. Regardez ce qu'il a fait pour vous. C'est par l'amour. L'amour amène l'obéissance. L'amour amène à faire la cour. L'amour amène le mariage. Et c'est là que nous nous dirigeons, vers le souper des noces de l'agneau. J'entends l'appel de mon Sauveur, qui me dit qu'il m'aime, moi aussi. Moi aussi. Mettez-y simplement tout votre cœur et sentez quelque chose en train de pénétrer en vous, tout doucement. C'est le Saint-Esprit. Si je vais lever mes mains avec l'auditoire pendant que la musique nous accompagne, si j'ai péché, si j'ai fait quoi que ce soit de mal, je suis en train de prier pour vous maintenant et pour moi-même. Si j'ai fait quoi que ce soit de mal, ma main levée vers toi, Seigneur, signifie que je suis désolé. Ma main levée vers toi, Seigneur, signifie que je ne voulais pas le faire. Et je sais que ma vie s'achève, Seigneur. Il me faut quitter ce monde physiquement. Je désire te rencontrer. Ma main signifie, prends-la, Seigneur. Remplis-moi de l'Esprit. Mets sur moi le signe de ton amour, le Saint-Esprit, qui me fera vivre une vie pleine de gentillesse, de douceur qui me fera vivre la vie qui était en Christ. Que mon cœur brûle pour les autres et que, le jour comme la nuit, j'ai de la peine à trouver le repos, cherchant à amener le plus d'âmes possible. Je serai comme les messagers à Jéricho. J'irai vers le plus de personnes possible pour voir si je peux les amener à venir sous l'alliance du sang, sous le sang de l'agneau, afin qu'elles puissent recevoir le signe. Voyez-vous, le sang purifie. L'esprit est un signe montrant que le sang a été appliqué. Voyez-vous, l'esprit est le signe que le sang a été appliqué. Tant que le sang n'est pas appliqué, l'esprit ne peut pas venir. Mais une fois que le sang est appliqué, alors l'esprit est un signe qui vous est renvoyé, montrant que votre foi dans le sang a été acceptée, que votre passage est payé. Votre passage est payé. C'est terminé. L'affaire est classée. Vous êtes un chrétien. Vous êtes un croyant. Christ est en vous. Et vous êtes en Christ. Avec vos cœurs inclinés devant Dieu maintenant, je vais laisser à votre pasteur, frère Neville, le soin de conclure et de dire ce qu'il peut avoir à dire. Rappelez-vous des services de ce soir. Il y aura un service de guérison. Venez tôt. Commençons à 7h pour que je puisse être sur l'estrade à 7h30. Est-ce que ça te va, frère Neville? Nous allons avoir la communion, vous voyez, ce soir. Venez, cet après-midi, continuez à méditer là-dessus. Ne laissez pas ce message s'éloigner de vous. Rappelez-vous, ne laissez jamais ce message s'éloigner de vous. Le sang sera un signe que la vie a été donnée. Voyez-vous, et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Le Saint-Esprit est un signe que le sang a été appliqué à votre cœur. Et c'est le signe que le sang a bien été appliqué. S'il n'a jamais été appliqué, alors le signe ne viendra pas. Si vous comprenez, dites « Amen ». Le sang doit être appliqué, et ensuite vient le signe. C'est un signe que le sang de la rédemption a été appliqué, et que votre passage est payé. Que Dieu vous bénisse, frère Neville.